Ouais, salut, c'est Julo.
Ouais, ça
non,
va.
Non, c'est pas Julo.
C'est trop dynamique.
Tout,
c'est
ouais.
trop dynamique.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'aurais pu la faire.
Bonjour, les amis, les
bonjour,
gens.
Bonjour, c'est Julo. Je suis en trivia.
On l'entendait mieux là.
Ouais, je suis un peu une ordure. Excusez-moi pour ce 888e podcast. Eh bien, c'est moi qui vais m'occuper de la présentation. Une fois n'est pas coutume. Avec moi aujourd'hui, nous avons Traz.
Salut tout le monde. Bonjour,
nous avons
merci.
Romain.
Bonsoir.
Nous avons Camille.
Hello.
Et nous avons Thomas,
Hola.
Dit le plus petit monsieur. Ensemble aujourd'hui.
Monsieur Fritz.
Ou Monsieur Fritz, c'est vrai. Ou
El
Monsieur
pequeño Fritz. Hombre.
Aujourd'hui, nous allons aborder trois
des titres
thèmes.
De livres pour enfants, tu sais.
Oui, les Monsieur Madame, ouais. Tu sais qu'ils en ont ressorti en plus, je suis désolé, on t'a coupé.
Ouais, vous êtes lourd.
L'habitude, de toute façon, c'est pas un souci. Continue.
Tu disais les thèmes.
Va au bout de ta merde là, vas-y.
Continue, Monsieur Fritz.
Réédite, vas-y.
Oui, mais ils rééditent des Monsieur Madame, mais je crois qu'ils en ont fait des versions un peu plus adultes il y a pas très longtemps,
un
histoire
peu plus hardcore,
de
ouais, c'est ça.
Briser ton enfance jusqu'au bout. Voilà.
Ça brise ton enfance quand on fait des Monsieur Madame.
Non, je déconne, je m'en fous. Moi, je suis le plus dégueulasse d'entre nous, tu le sais bien.
D'accord, mais tu prends
un coup de
par train. Trois thèmes aujourd'hui, donc nous avons d'abord tenu à rendre un petit hommage à un petit monsieur, qui s'appelle Reggie Fils-Aimé. Vous
exact.
L'avez appris ce 21 février, Reggie Fils-Aimé va tirer sa révérence le 15 avril le prochain, il partira à la retraite et il va laisser sa place à un certain Doug Bowser, ça ne s'invente pas. Et on avait envie de faire un petit retour sur
petit
la carrière de ce grand monsieur, parce qu'il est gigantesque, au sein de Nintendo. Deuxième thème, ça concernera Microsoft, parce que la semaine dernière, et déjà ça fait quelques mois, hein, que ça commence à bruisser, à bouger un peu de tous les côtés, concernant la firme de Redmond, eh bien, il y a des choses qui ont été déclarées, notamment par notre ami Épion de jeuxvideo.com la semaine dernière, des choses qui se murmurent
de
aussi.
Nombreuses sources concordantes.
Absolument.
Qui viennent sources vraiment de part et d'autre.
Qui viennent de partout, comme des flèches d'Indiens, ça fuse, vous savez pas comment c'est possible. Eh bien, il y a énormément de choses.
Partout comme des flèches d'Indiens.
Ouais, okay. Des flèches d'Indiens, tu sais, comme dans les films, les flèches d'Indiens,
d'accord,
arrivent sur toi. Et
t'as vécu des traumatismes dont tu n'as pas parlé à ton psy, toi.
Bon,
je
non, je crois pas avoir connu de guerre contre les Indiens, personne.
Comme des lasers.
T'as regardé des films. Non, tu regardes pas de films.
Non, bah non.
Troisième thème, ce sera. En thème, troisième thème,
en thème.
En thème pas. Voilà. Donc, comme ça, on verra tout à l'heure pourquoi avec Camille. Finalement, en thème est une déception, malheureusement.
Non, c'est toi qui dis ça.
Comme d'habitude, vous le savez, il y aura aussi l'anniversaire, le hors-jeu qui clôturera le podcast. Mais avant ça, avant de commencer tout ça,
jingle.
Nous avons le win de la semaine. Et le win de la semaine, eh bien, c'est Traz, dit
ah
le
bon
chiffre.
T'es sûr de toi?
Dit Emmanuel le chiffre,
ouais,
même,
exactement. Alors
qui
moi,
va
vous
nous en parler. Le win de la semaine, mon cher Traz.
Dit le mentaliste.
J'ai tout là-dessous.
Qu'est-ce que tu as, Traz, sur ton téléphone?
Écoute, le sel, n'est-ce pas, a rendu public. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu.
J'ai dit, qu'est-ce que tu as sur ton téléphone?
C'est d'accord. Oui, bah oui, plein de choses. Oui, j'ai tout sur mon téléphone parce que le bouquin habituel qu'ils nous envoient, ils l'ont pas fait cette année. Donc,
ah bon?
C'était sous forme de PDF. Non, on l'a pas reçu. Enfin, moi, je l'ai pas reçu en tout cas.
Moi, il était dédicacé.
Caché,
tout,
en fait. Non, mais ça arrive qu'on le reçoive, mais avec un peu de décalage.
Tout à fait.
On verra bien.
Donc, c'est le jeu vidéo au niveau chiffre en 2018.
Et en France.
Et en France, évidemment.
Avec le sel, forcément.
Et donc, première bonne nouvelle, hein, allons vite parce qu'il y a tellement de trucs que ça va être un peu long. Donc,
oui, puis si on commence à t'écouter par les chiffres, ça pourrait durer des heures
exactement,
et des heures.
Exactement. Hein. Surtout que je vais m'embrouiller et tout à un moment donné parce que
bon,
vous
ça
allez
jamais
me déstabiliser comme d'hab. Donc, alors, ce qu'il faut retenir, c'est de ce bilan 2018, c'est le chiffre d'affaires qui est de 4,9 milliards d'euros.
Wouch! C'est un record par rapport à.
Assez colossal, c'est 15% par rapport à 2017, ouais, tout à fait, sur le global. Et parmi ces 4,9 milliards, il y a 2,750 milliards pour l'écosystème console,
mm-hmm,
et 1,237 milliards pour l'écosystème PC.
D'accord.
946 millions pour l'écosystème mobile. Donc la console reste encore quand même bien en haut de.
Largement plébiscité par rapport au reste.
En haut de l'affiche, etc. Comme souvent. Quoi d'autre comme chiffre? Non, parce que je vois plein de trucs sous mes yeux.
Il y a le démat par exemple.
Je peux mettre en plus gros.
La proportion du démat qui vient de passer la barre des 50% quand même.
Oui, c'est devant.
Exactement.
Devant
54% de ventes en démat.
Mais ça comprend le DLC, c'est pas que les ventes de jeux.
C'est quand même énormissime.
Ça englobe plus les abonnements et tout.
Quand on se posait la question il y a encore peut-être 3 ans de dire, mais non, mais le démat, les gens veulent du physique.
Ça va forcément arriver, ça c'est une évidence que ça va devenir la norme d'ici, à mon avis, 5-6 ans peut-être.
Si c'est pas déjà le cas. Sur PC, ça représente
sur
quasiment
PC,
la totalité
oui,
des ventes.
Sur pareil.
Bah, si t'es pas.
Parce qu'un PC, c'est un PC. Hein. Je veux dire, t'as pas d'achat de console, t'auras juste des cartes et choses comme ça. Donc, forcément, tu télécharges quasiment tout. Quoi.
Si t'es pas un collectionneur dans l'âme, faut quand même reconnaître que le démat, c'est super pratique.
Mais moi,
c'est pas toujours avantageux niveau prix. mais c'est pratique.
Ouais,
fait...
bah, moi je trouve que plus le temps passe et plus je vieillis et plus je me dis que c'est bien le démat en fait.
Ouais, mais quand tu télécharges Red Dead, il y a quelques années, tu télécharges Red Dead 2 qui fait 112 gigas par exemple, parce que t'es
oui,
vraiment
y a
content.
Des exceptions, c'est
imagine
sûr.
Tu as plus dans le Exodus.
Voilà, nous on a de la chance qu'on est en région parisienne, on a des bonnes connexions.
Non, mais comme dit Romain, t'as quelques jeux où effectivement t'as des collecteurs, des super jaquettes, etc. T'as envie de les avoir.
Et puis il faut voir ce que ça prend sur le disque dur aussi, parce que.
Mais maintenant t'installe tout.
Non, mais si t'as acheté une console 500 gigas par exemple quand la PS4 est sortie, un Red Dead, un Metro Exodus, un FF15.
Tu sais ça, même si t'as les versions physiques, c'est pareil.
T'as plus grand chose.
Un disque dur,
t'es obligé
d'enlever des trucs.
Un disque dur d'un tera ou deux tera, tu l'achètes chez Grobil ou chez, je sais pas, LDLC ou matériel.net. Je sais pas où. Oui, ça existe toujours. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Grobil en premier. Hein,
c'est comme les flèches d'Indien juste avant. T'as des
ou Amazon, enfin voilà. Tu l'achètes pour 50€, tu le mets dans ta PS4. Le tuto, c'est même Sony qui le fournit le tuto. C'est ultra simple à faire.
Tu viendras m'installer alors?
Non, il y a un tuto, je viens de te dire.
Et c'est Sony qui fournit chez toi, c'est trop loin.
Les tutos de Plumeau, ça ferait une bonne.
Ah, c'est pas mal,
n'importe. Oh non, comment ça? Commencez pas à donner des idées à la con comme ça.
RT follow.
Ça
bon, sinon je voulais aussi parler des top 20 des jeux 2018, toutes plateformes confondues.
Ah.
Alors, quels sont les jeux qui ont le plus cartonné en 2018?
Je sais pas, deux têtes, hein. Je vais dire que facile, FIFA 19 doit être premier avec 19 millions. Non, avec 1 353 358. Deux têtes.
Nombre de ventes. Donc, ouais. FIFA cartonne toujours autant, hein. C'est du foot évidemment. Et surtout, Red Dead Redemption 2.
Ouais.
Qui est sorti quand déjà exactement?
Le 26 octobre.
Oh, c'est ça, il est sorti en toute fin d'année, dernier trimestre. Il a déjà plus d'1 million de ventes
En France,
sur la fin
d'année
en fait. Hein. Sur 3 mois.
Les million sellers en France, il n'y en a pas.
Il y en a eu deux.
C'est les deux seuls.
Ouais. C'est les deux seuls.
Le troisième, c'est Call of Duty Black Ops 4 à 560 millions.
Ouais. C'est étonnant que GTA 5 soit pas dans le tas. Tiens, ça me. Soit pas dans les trois premiers.
Non, lui qui vend. Mais il est dans le top 20.
Ouais, mais qu'il soit pas dans les trois premiers, ça me surprend. C'est la fin d'un règne. Rockstar est-il dans la merde?
C'est Rockstar va mourir, tu veux dire?
Rockstar va mourir.
Rockstar va mourir s'ils sont pas dans le top 3 avec GTA 5.
Et le premier jeu Nintendo, c'est Mario Kart de 8 Deluxe, 542 000.
Ça aussi, c'est impressionnant.
C'est fou. Hein.
Parce que le premier jeu Nintendo du top de l'année, c'est même pas un jeu de cette année-là. Quoi.
Même il a jamais quitté.
Quand on parle des Evergreen.
Non, il a peut-être quitté 2 semaines depuis un an. Depuis sa sortie, en fait, je crois qu'il a quitté les charts. Il a le top 5 par des ventes hebdomadaires en France de jeux physiques, il l'a quitté peut-être 2 semaines. Mario Kart 8 Deluxe. C'est quand même hallucinant.
Ils font des pubs régulièrement, etc. Surtout vers la fin de l'année.
Ils continuent à faire des packs.
C'est là où
aussi
ça cartonne le plus, exactement.
Ça, c'est toujours le style Nintendo, des jeux qui se vendent sur la très longue durée.
Ah, mais 2014 à la base, quand même. Sur l'original, sur le 8.
Si tu comptes la version Wii U.
C'est complètement.
Et comme tu disais, Plume, ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires sur le marché physique, hein. C'est que du marché physique dont on vient de parler là. Ça représente quasiment 76 millions pour FIFA 19.
Ouf.
Et 57 millions pour Red Dead Redemption 2.
T'as, rien qu'en France, ils se sont fait 57 millions d'euros.
Ouais, voilà, et après FIFA, tu rajoutes par-dessus l'Ultimate Team et les trucs comme
puis,
ça.
Toutes les thunes que les gens ont dépensées pour
les
ça.
Les jeux téléchargés que certains ont achetés, j'imagine.
Oh là là là. Toute cette monnaie qui est brassée.
Mais Nintendo aussi, hein, se porte bien, hein, parce que quand tu vois que, ne serait-ce que dans le top 10, ils ont déjà 1, 2, 3, ils ont 3 jeux quand même. Donc ça va, c'est sympa.
Ouais, puis je crois que c'est l'éditeur qui vend de moyenne, celui qui s'en sort le mieux, si je m'abuse.
On est un territoire historiquement très Nintendo, ouais, mais ça se dément pas.
Et eh bien, donc la France se porte bien au niveau jeux vidéo.
Là,
tout va bien.
Souci. Bah oui, écoute, 2018 a été une très très bonne année.
Et bon, on va faire mieux en 2019, ou pas. Maintenant, il est temps de passer au fail, et ce fail, il est très triste, mon cher Romain.
Ouais, triste.
Parce que pour les joueurs historiques, ceux qui connaissent un petit peu Sega, c'est une partie de l'histoire qui s'effondre finalement.
Alors ouais, il y a quelques mois, c'était soit pendant la fin de l'été ou soit au tout début d'automne, Sega a déménagé ses locaux, enfin son siège, parce que il voulait consolider les choses avec Sega Sammy et les différentes filiales du groupe. Ils ont voulu réunir tout le monde dans un même immeuble. Ce qui veut dire que le bâtiment qui était occupé depuis plusieurs dizaines d'années à côté d'Haneda a été libéré finalement. Et là, on a appris que Sega avait vendu ce complexe pour une somme de 5,2 milliards de yens, ce qui fait environ 41 millions d'euros. Et comme souvent dans ce genre de situation, ça va être démoli. En fait, ça va être démoli.
Mais c'est
ils
affreux.
Vont construire
ils auraient pu faire
choses.
Un Tipeee ou un truc comme ça pour que ce soit des fans qui rachètent les bâtiments.
Bah, c'est 41 super millions. Triste. C'est super triste parce
mais
que
c'est bizarre d'ailleurs. Mais pourquoi
c'est vraiment le lieu symbolique de Sega. Comme la photo de la news le montre, hein, c'est avec l'entrée, c'était affiché tout de suite que Sega était ici sur les les nouveaux locaux, c'est moins, ça saute pas aux yeux de la même manière. Et d'ailleurs, quand ils ont déménagé à la fin de l'été, plein de développeurs avaient mis des messages avec des photos. En fait, tu sentais qu'il y avait une vraie émotion chez les gens de chez Sega vis-à-vis de ce départ. Et donc là, qu'on apprenne que ça allait être démoli, ça a provoqué une nouvelle vague, dont chez Yuji Naka, le co-créateur de Sega, qui s'est rendu avec ses enfants devant cet ancien immeuble pour leur montrer justement où il avait créé
pèlerinage, quoi, on pourrait dire.
Où il avait créé Sonic. Et ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que encore plus triste, on va dire, c'est qu'il a vu qu'il y avait du monde, ça s'agitait un peu devant les locaux, et il s'est dit, tiens, les gens sont venus prendre des photos en souvenir, etc.
En fait, non.
Alors qu'en fait, non, il y avait juste un raid Pokémon Go à cet endroit-là, non, et c'est... donc les gens étaient juste...
C'est la haine.
C'est déprimant.
Les gens étaient juste en train de jouer à Pokémon Go. Il y a eu pas mal d'autres messages ensuite sur Internet, donc il y en a un autre que j'ai retenu, c'est celui de Al Nielsen. Alors, Al Nielsen, en France, c'est pas forcément un nom qu'on connaît, mais c'est un mec qui a été essentiel chez Sega à la grande époque. Quand je parle de la grande époque, c'est donc à l'âge de la Mega Drive aux États-Unis. C'est lui qui avait fait le marketing de Sonic 2, par exemple, qui avait déterminé qu'il y aurait Sonic Tuesday et Sonic 2 sortirait partout dans le monde en même temps. En fait, c'était vraiment un génie du marketing. Et lui, il estime qu'il devrait y avoir une plaque commémorative, même s'il rase tout, mettre une plaque commémorative pour dire que Sonic a été créé à cet endroit-là, parce que c'est quand même une figure de la pop culture super importante. Enfin, tout le monde connaît Sonic,
c'est
ou presque.
Un minimum d'avoir quelque chose pour rappeler que c'est là que...
Et il dit qu'il se rappelle, enfin... il se rappellera toujours du jour où, dans ces locaux-là, il a vu Sonic tourner pour la première fois sur l'écran du kit de développement de Yuji Naka. Et donc, comme Poufy est en train de vous le montrer, là, j'avais mis dans la news quelques photos de ces locaux au fil du temps. Donc, ils sont vraiment restés là très longtemps.
Ils ont tout changé quand même. Hein.
Heureusement, on se l'a dit. C'est vraiment un bâtiment historique.
Mais il faut quoi à la place, du coup? Tu l'as peut-être dit, j'ai pas entendu.
En fait, alors ce bâtiment-là, ils vont raser, on ne sait pas ce qu'il y aura à la place. C'est le nouveau propriétaire qui déterminera ce qu'ils en font. Mais Sega, en fait, a décidé de quitter ces lieux, justement pour réunir toutes ces filiales dans un même immeuble. Et c'est vrai que maintenant, ils sont dans un endroit ultra moderne, un bâtiment qui est assez chouette, mais qui n'a pas forcément le charme de ces locaux historiques.
Ils auraient pu faire un musée ou un truc comme ça aurait été rigolo.
Il y a même des gens sur internet au Japon qui disaient des lieux historiques comme ça, il faudrait les préserver, empêcher la destruction. Mais c'est vrai qu'un musée, après, ça aurait peut-être été trop grand pour faire un musée. Mais donc
c'est la petite histoire de la semaine.
Moi, je suis d'autant plus deck que j'ai jamais eu l'occasion de faire de press tour, parce qu'il faut savoir que le fameux Ryuga Kotoku Studio, donc le studio qui développe les Yakuza, était aussi situé dans cet immeuble, et c'est Edge qui avait eu une exclue il y a quelques mois. C'était apparemment le dernier press tour fait dans les anciens locaux de
Sega. Ça se trouve, quand
ils
vont démolir les trucs, ils vont trouver des trucs secrets et tout.
C'est possible.
Tout simplement.
Non, mais rien que
les bornes de Michael Jackson.
Non, parce qu'en plus, ils ont quitté le truc, mais ils ont laissé l'enseigne Sega devant, ils en ont laissé une autre devant le truc. Enfin. Moi, je suis à la place des gens qui vont s'occuper de la démolition.
Si c'était en Europe, quelqu'un l'aurait déjà piqué et ramené chez lui.
C'est
sûr.
Non, mais le pire, c'est que.
Tu ne prendrais pas le logo Sega de la façade.
Je pense que ça vaudrait une petite fortune.
Oui, mais il faudra en faire quelque chose de public. Tu parlais de plaques. Les anciens locaux de Nintendo à Kyoto sont mentionnés. Justement, tu as une plaque commémorative, même si le local n'est plus là.
Et la façade a été préservée.
Tu sais que c'est ici que l'entreprise est née, etc., avant qu'elle déménage plus au sud de la ville. Donc, oui, ce serait bien qu'il y ait quand même un petit message pour rappeler aux gens quand tu passes. Parce que c'est effectivement ici que Sega a vu le jour.
C'est pas rien, quoi. C'est pas un développeur qui a tenu 10 ans et qui a fait un jeu comme ça. Là, c'est quand même Sega.
Aux personnes qui ont racheté, peut-être de faire quelque chose. Hein. Peut-être qu'elles auront un peu d'honneur.
Je pense qu'elles nous écoutent.
Tout dépend ce qu'ils vont en faire là encore. Enfin, la petite histoire triste de la semaine.
Bah, l'histoire du Jinaka là, ça me fout la rage.
L'indignité.
Bon, encore heureux que nous puissions passer à quelque chose d'un peu plus joyeux maintenant, avec un joli jingle. Après ce joli jingle, évidemment, nous allons laisser la parole à Thomas qui a été fouillé.
C'est vrai.
Tout simplement.
L'internet.
C'est pas les poubelles, c'est juste les archives de Gameblog.
Les poubelles
d'il y a 10 ans.
Tu connais.
Et je parie qu'il y a des choses très croustillantes à se mettre sous la dent, mon cher Thomas.
Effectivement, en l'occurrence, c'est pas du poulet, mais c'est ce cher Michael Jackson dont on parlait il y a 10 ans. Effectivement, tu m'as tendu une jolie perche pour faire la transition.
Je sais même plus.
Puisque à l'époque, donc on est en 2009, mais on est en février. Donc,
les photos.
MJ est toujours. toujours de ce monde, hein, il est toujours pas overdead pour le coup.
C'est vrai.
Mais il mettait quand même déjà en vente une partie de sa collection. En fait, on le sait plus ou moins ici dans le milieu, mais Michael Jackson était un énorme fan de jeux vidéo, et comme il avait un tout petit peu d'argent avec les ventes de ses disques, et bah, il s'achetait des dizaines de bornes d'arcade en fait pour son plaisir perso. Et comme il avait en plus la place de les stocker, et bah, il avait un sous-sol absolument pléthorique en termes de bornes d'arcade. Et là, à l'époque, en février 2009, eh ben, il décidait de organiser une vente aux enchères en fait pour se séparer d'une partie de sa collection. Du coup, on avait une jolie vidéo à l'époque et le catalogue de l'exposition qui allait avec pour voir un petit peu ce qui se cachait dans la cage de MJ. Et pour le coup, on pense souvent à des bornes dédiées.
C'est le générique de Ricky ou la belle vie, oui, ça n'a rien à voir avec Michael Jackson.
Dans la news de l'époque, effectivement, on faisait référence au générique de Ricky ou la belle vie.
Ça y fait un peu penser, hein, cela.
Bien sûr,
parce qu'il avait il avait des bornes, il avait un train. Ouais. C'était un peu le même délire que MJ, tu vois ce que je veux dire.
Et j'ai regardé, pardon, je finis juste, j'ai regardé le catalogue de la vente et on s'imagine toujours, on sait qu'il aimait beaucoup Sega, justement, on en a parlé juste avant. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est de trouver beaucoup de bornes de Versus Fighting en fait dans la collection de Michael Jackson, puisque il y avait Marvel Versus Capcom, il y avait Mortal Kombat l'original, il y avait Super Street Fighter 2, et il y avait aussi quelques jeux qui te tiennent un peu plus à cœur, mon cher Romain, comme le fameux NBA Hangtime par exemple, ou bon un goût. Certain Crazy Taxi dont on parlait justement, puisque en plus il se trouve que la version arcade fête ses 20 ans cette semaine.
En fait, je pense que Michael Jackson, son truc c'était d'avoir tout ce qui est nouveau et tout ce qui se fait de mieux. Donc il devait même pas choisir, je pense, il devait dire ça je veux, ça je veux, ça je veux. Non, ça, je pense que même dans certains cas les éditeurs devaient lui envoyer les bornes gratos. Enfin, Michael Jackson, il te demande un truc, tu lui files.
Ça, je te le confirme. Phrase. J'ai vu une vidéo récente qui est sortie justement sur Michael Jackson, je sais plus où il était. Je crois que c'était à Dubaï. Et il était donc dans une espèce de mall sur place, et il disait vraiment je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça.
Mais le mec totalement inutile qui servait à rien du tout. Le mec, il a construit un parc d'attractions dans son jardin. Ça te montre le niveau de d'oseille qu'il avait à un moment, quoi.
Non, mais là, je pensais pas qu'il avait vraiment ses lubies d'achat compulsif. Ah,
il voulait tout. Et
hallucinant.
Et après sa mort, donc faut se rappeler qu'il est mort en juin 2009, donc quelques mois après la publication de cette news.
Enfin, il est allé sur l'île avec Elvis et Tupac. Voilà. S'il te plaît.
Il y a eu d'autres.
Sur l'île de Pâques?
Non,
McCartney aussi, n'oublie pas.
Voilà, et Marilyn Monroe.
Il y a une autre vente aux enchères, justement, et là encore, où ces bornes d'arcade étaient vendues. Et ils avaient fait une sorte de truc, une petite application à 360 degrés, tu sais, où tu pouvais te balader virtuellement dans sa salle d'arcade. Et il ferait rougir certaines salles d'arcade officielles.
Oh bah,
tant
sûr,
il avait de trucs. Et pas que des jeux, hein. Il y avait aussi des simulateurs et des trucs comme ça. Enfin, c'était
Il y avait une différence, c'est que lui n'avait pas de problème d'argent en l'occurrence. Donc
il y en a eu après à la fin.
Ouais, ni argent, ni place. Ouais.
Justement, je pense qu'il dépensait tellement que s'il
avait accepté de faire ses 50 concerts, là, c'est pas pour rien.
C'était 300 millions de dettes, c'est ça qu'il avait.
C'était colossal, vraiment.
Bah, il avait laissé son parc à l'abandon d'ailleurs. Ouais. Enfin, bon, c'est
triste tout ça.
Il a dépensé
son je vais encore avoir la rage aussi là, fais chier. Bon Thomas.
Eh ben écoute, c'est pas grave.
C'était triste.
Je vais te redonner le moral puisque on avait une news exceptionnelle il y a 10 ans sur Gameblog avec quelques chiffres pour le coup, mon cher Traz. Et en l'occurrence, le résultat était incroyable puisque cette semaine-là, le 27 février 2009, la Xbox 360 dépassait la Wii et la PS3 au Japon dans les charts.
C'était la seule fois.
Vous ne rêvez pas. C'était peut-être l'une des seules fois, et c'est pour ça qu'on en avait parlé, justement. Et c'était la sortie d'un certain Star Ocean 4 qui avait boosté en fait les ventes de la console. Le jeu était le plus vendu cette semaine-là. Je crois qu'ils en ont vendu 162 000 exemplaires. Et du coup, il y a eu une espèce de ruée sur la console américaine au Japon. Et on se demandait à l'époque si ça allait durer ou si ça allait très rapidement passer.
Et bien, c'était passé.
Et bien, c'est passé dès la semaine suivante.
Exactement.
Puisque,
je m'en souviens en fait de ce jour-là.
Portable mis à part, puisque évidemment à l'époque c'est la DS et la PSP qui trustent les sommets des charts. Donc là, on parle uniquement des consoles de salon. Cette semaine-là, c'était bien la 360 qui était devant les autres avec 25 000 exemplaires contre 18 000 pour la Wii et 16 000 pour la PS3. Et dès la semaine suivante, sort un certain Yakuza 3. Au Japon, mon cher Romain, et du coup, PS3, ploup, qui revient en tête, 36 000 consoles, la Wii 20 000, et la 360 qui retombe à 13 000, ce qui est pas si mal vu les scores qu'elle a fait très rapidement quelques années après, mine de rien.
Ah bah, et quand tu compares à la Xbox One qui a fait des semaines à peine 100 consoles vendues, 13 000, c'était.
C'est le bout du monde.
C'est Byzance, hein, c'est. Comme quoi. Tout peut arriver quand t'as des jeux qui intéressent les Japonais.
Et Star Ocean d'ailleurs, qui trustait la première place des charts software cette semaine-là, est tombé à la 8e la semaine d'après.
Mais ouais, mais c'est vrai que c'est, moi je me souviens aussi que ça avait marqué tellement rare. Je pense que le boss de Xbox au Japon, il a dû imprimer les charts Mediacreate et les accrocher.
Je pense que si ça arrivait aujourd'hui, on ferait une news avec que des majuscules. Genre on ferait des caps lock tout du long.
Et on mettrait la tête de Phil Spencer qui fait oh comme ça, ou un truc dans le style bien détouré comme il faut. Troisième news d'il y a 10 ans, Thomas.
Et pour finir,
souvenez-vous, formidable,
notre maître S-chiffre à nous qui nous parlait du top 50 du Guinness Book à l'époque. Ah bon? Et oui, mon cher Traz, c'est toi. Et tu nous posais la question, quel est le jeu le plus influent de tous les temps?
Je m'en souviens pas de ça.
Selon le Guinness Book, eh bien,
est-ce que l'image est un indice?
L'image est peut-être un indice chez vous. Et si tu as bu trop de Guinness et que tu ne t'en souviens plus, mon cher Traz, je vais te donner la réponse.
Selon le Guinness Book.
Et ouais, la version 2009 nous disait que, oui, c'est quand même assez étonnant, le jeu le plus influent de tous les temps à l'époque, c'est Super Mario Kart. Donc l'épisode original, sorti en 92 sur Super Famicom, suivi de Tetris, de Grand Theft Auto, le premier, Super Mario World et Ocarina of Time pour clôturer ce top 5.
Pour clore.
Ça m'étonne que Super Mario Bros, le premier, soit si bas dans le classement. Ouais. Je l'aurais mis, enfin, comme si tu m'avais posé la question sans que je vois le classement, je l'aurais mis avant Super Mario World.
Oui, parce que c'est
pour l'impact culturel qu'il a eu.
Oui, et en termes de game design, il a conditionné énormément de choses.
T'as PES4 dans le tas, quoi. Je veux dire, il y a un moment, quand tu fais des classements, faut pas être bourré, quoi.
Quand tu t'appelles Guinness Book, qu'est-ce que tu veux.
Gamers Edition, bien sûr.
Et du coup, 10 ans plus tard, en même temps, Super Mario Kart est toujours quand même très actif.
Ça a pas tellement changé, en fait.
Puisqu'on a toujours des championnats du monde qui se tiennent. Et en plus, j'en profite pour le rappeler, les champions en titre 2018, que ce soit en overall ou en time trial, ce sont deux Français.
C'est pas vrai.
Julien Olmière et Guillaume Leviatch, qui sont tous les deux couronnés. On les salue, on les félicite et on leur souhaite évidemment bon courage pour l'édition 2019, puisque ça fait plus de 10 ans que chaque année on a toujours un tournoi mondial de Super Mario Kart.
Ouais, et surtout que tu le présentes en plus en 2019.
Non, pas du tout. Super Mario Kart, il est injouable pour moi, je lui préfère.
Ah bon,
ouais, vraiment.
Il est intestable.
Avec toute la chatte que t'as, tu pourrais pas.
Ouais, mais là la chatte elle marche pas sur la version Super Famicom. C'est dommage.
Très bien, bon, on va rester dans l'univers de Nintendo maintenant, messieurs, pour passer au premier thème de ce podcast, un thème qui va être abordé dans la légèreté et la douceur, parce qu'on va parler d'un homme plein de légèreté et de douceur. C'est Reggie Fils-Aimé.
Qui hommage à Reggie Fils-Aimé.
Bah oui,
il est pas mort,
hein. Il est pas d'accord.
c'est une sorte d'hommage, parce
mais je dis oui, il le mérite, hein, moi je pense, hein.
Alors
c'est un mec qui
21 février au soir,
tout ce qu'il a fait en Europe, c'est super important.
21 février au soir, donc, par communiqué de presse, Nintendo of America apprend au monde entier que Reginald Fils-Aimé va laisser sa place le 15 avril prochain à Doug Bowser, à la présidence de Nintendo of America. Reggie Fils-Aimé, c'est ce monsieur qui était arrivé comme vice-président des ventes marketing et du marketing de Nintendo of America en 2003, et dont on se souvient pour sa première apparition très remarquée, n'est-ce pas, à l'E3 2004. Est-ce que quelqu'un peut ici dans cette salle me rappeler exactement ce qu'il a dit avec la traduction française?
Alors attends,
c'est les premiers mots qu'il a balancés en arrivant sur scène.
Bonjour, je suis Régis.
I'm all about kicking ass ou un truc dans ce genre.
Je suis Régis, fils aimé, je suis venu pour prendre
C'est pas exactement ça.
Bonjour, je suis Régis.
Non plus. C'est My name is Reggie.
Ouais,
mon
nom est Reggie. Je suis venu ici pour prendre des noms et botter des culs.
C'est dans l'autre sens.
Pour botter des culs, prendre des noms. Attends.
Attends.
Bonjour.
Non, t'as raison. Non.
Non, c'était King Names.
Non, d'abord botter des culs, ensuite
kicking ass and taking
prendre des noms.
Names.
Ouais,
moi je pense que
et ensuite faire des jeux.
Et faire des jeux, voilà.
Voilà, et ça, cette phrase donc qu'il est venu dire sur scène, alors qu'elle n'est pas du tout de lui. Il l'avait expliqué plus tard que c'était le marketing qui lui avait, qui lui avait suggéré de faire
ça.
C'est
pour se présenter de manière.
C'est pas son style, Richie, kinky ass.
Ouais, mais voilà. Et c'est un peu ce qui a fait sa marque de fabrique qui a été adoptée immédiatement. Par les joueurs,
comme My Body is Ready, etc. C'est
une catchphrase, et puis le mec est devenu célèbre,
c'est ça, hein.
Et presque adoré en
la
fait.
Preuve, déjà, 1000 ans après, on en parle encore.
Surtout qu'il est arrivé à un moment où Nintendo était pas dans une situation compliquée, mais c'était pas à ce moment-là que la boîte était le plus en forme, aussi bien en termes d'image que ce que
t'es ça, enfin ça a l'air de monter par la suite, mais effectivement, au moment où il arrive, on est période GameCube, donc
période GameCube. En plus, t'es niveau console portable qui restait quand même malgré tout la source d'entrée d'argent principale de Nintendo. T'arrives quand même en fin de Game Boy. C'est d'ailleurs à cette conférence-là que la DS a été, enfin le prototype de DS a été présenté pour la première fois. Comparativement à ce qui se faisait chez Sony, là cette année-là, ils fanfaronnaient sur c'est bon, toutes les autres consoles sont dans le rétroviseur. Microsoft, ils montraient la démo de Halo 2 cette année-là. Nintendo, ils étaient un peu à la traîne en termes d'image, en termes de cool, etc., et d'avancée technologique. Et voilà Reggie qui arrive avec sa phrase un peu percutante
et le costume trop grand, et la DS.
Tank à l'américaine.
Ça change. Surtout que les communicants de Nintendo à cette époque-là, ils sont pas charismatiques. Hein. C'est.
Mais attends, il y avait qui avant Reggie? Franchement, personne ne s'en souvient.
Je sais plus si c'était.
Je crois que c'est George Harrison qui est président de Nintendo.
Chanteur américain.
Oui, absolument.
Guitariste.
Le guitariste.
Et parce qu'il c'est pas Reggie qui fait la conférence tout seul cette année-là. Ils alternent et il y avait encore les tunnels de chiffres qu'on n'a plus maintenant à l'E3.
Les présentations business qui ouvraient les conférences et qui endormaient tout le monde.
Et d'ailleurs, si vous regardez des photos de cette conférence, la scène est toute petite. Hein. C'est pas les salles massives qu'on a désormais C'était vraiment une petite conférence de presse.
Oui, mais à la différence qu'il arrive à l'époque où justement les conférences de l'E3 commencent à être diffusées partout sur le net, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu avais des comptes rendus de la part des journalistes qui étaient présents sur place.
Des live tweets.
Des live tweets à l'époque, mais un live report, alors que là on pouvait, moi j'ai commencé à les regarder quand j'étais à la fac, donc en 2003, tu commençais à pouvoir les suivre en direct, et donc forcément l'impact il est bien plus important puisque t'as la figure, et comme en plus il avait l'avantage d'être américain, il pouvait parler assez bien anglais, contrairement à un Iwata ou un Miyamoto qui était parfois plus dur à comprendre.
Et Reggie a eu l'avantage aussi d'être donc assez charismatique, ça aux États-Unis ils aiment bien. Et en plus d'être bon client, au sens où il se prêtait à tous les petits clips qu'il faisait sur internet, et donc c'est presque devenu un mème à lui tout seul.
C'est devenu un mème.
On a tous vu cette photo de Reggie qui hausse les épaules et qui fait à cette époque-là d'ailleurs, je crois au tout début, qui hausse les épaules et qui fait comme ça, et ça a été réutilisé mais
un million de fois.
Ouais, et même des fois dans des cadres qui n'avaient rien à voir avec le jeu vidéo. Et c'est pour ça aussi qu'il est devenu célèbre et populaire hors des États-Unis, où il n'avait pour le coup strictement aucune influence, parce que Reggie Fils-Aimé, faut se rappeler que c'est le président de Nintendo of America. Par exemple, nous on l'a jamais eu en interview, on ne serait jamais eu d'opportunité avec lui parce
mais
que
on l'a croisé.
Moi je l'ai vu à l'E3 la première fois. Je m'attendais pas à quelqu'un de si grand. Je suis pas petit moi,
c'est
mais...
une putain d'armoire normande. Il fait 1m90 et
il est
large,
super carré.
Là on voit la vidéo avec Iwata.
Voilà, et il se frite avec Iwata. T'imagines un businessman comme ça, président d'une grosse boîte comme ça.
Mais c'est ça le truc en fait avec difficile, mais c'est qu'il a quand même été mis en étant patron de Nintendo of America, donc c'est pas forcément la branche japonaise, c'est pas le plus haut grade possible. Il est mis au même niveau que Satoru Iwata ou que Shigeru Miyamoto. Il est pas créatif, le mec c'est un marketeur. Il vient de chez Pizza Hut je crois juste avant.
Ouais, Pizza Hut et après MTV VH1.
Donc il se revendique comme
les
gamer.
Pizza favorite de Trump, mec.
Il dit lui-même qu'il joue avec ses enfants, mais à côté de ça, comment est-ce qu'il a fait justement pour élever son niveau d'image jusqu'à atteindre celui de deux personnes qui sont deux des créatifs les plus reconnus
de
Nintendo.
Pour ça, regarde ce qu'il fait. Parce qu'il danse, il se montre.
Parce qu'il se prêtait au jeu, il acceptait de faire tout ces trucs-là.
Il se mettait en scène, il le faisait bien. Et surtout, on lui a pas prêté à côté de déclarations un peu pourraves. Enfin, il n'y a rien qui est venu véritablement ternir son image.
Il
n'y
a pas eu de bad buzz.
N'importe quel président de firme fait les trucs qu'il a fait. Il y a des clips où c'est ultra mal joué. Et je pense qu'il y a une partie volontaire. Mais il y en a, ils coulent leur carrière comme ça.
Parce qu'il y avait toujours une petite retenue. Je sais pas si
c'est,
ça vous a pas marqué, mais
si,
dans ces
vrai,
clips
raison, ouais.
Il se prêtait au jeu,
mais pas tout match non plus,
c'était
quoi.
Jamais en hurlant ou en faisant des grandes pauses, des trucs comme ça. T'avais
même,
toujours
même quand Bowser lui crache ses flammes dans la 3DS, c'est un cri de douleur, mais vraiment troisième degré, quoi.
Ouais, il avait son style en fait. Il avait le style Reggie, et c'est ça qui plaisait,
c'est ça qui est beau,
qui plaisait aux gens. Ouais, tu vois, le mec, il est président de Nintendo, il signe des autographes, hein, c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le premier non japonais à avoir atteint le poste de président de Nintendo of America, parce qu'avant, même si
t'avais des
communicants qui étaient haut placés, etc., ou directeur marketing, etc.,
c'était que le japonais.
Le stade, le plus gros grade, on va dire, était réservé toujours à des japonais.
Et qui contrôlait.
Et lui,
en fait,
c'était le premier à atteindre ce niveau-là.
Poste suprême.
Est-ce que son départ à la retraite à 57 ans vous étonne?
Ah oui, à la retraite, t'es sûr de ça ou juste
oui, il a dit comme ça.
C'est ce qu'il a dit. Bah,
qui partait à la retraite.
Moi, bah, ça m'étonne, j'en sais rien. Moi,
ça m'étonne pas beaucoup.
Peut-être
parce
qu'il a assez d'argent.
Il est blindé comme c'est pas permis, donc il peut se barrer et couler des jours heureux.
Ouais, mais bah, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une. Lui, il dit je pars de bonne humeur, en bonne santé.
Je crois qu'il s'est fait dégager à coup de pied au cul par Bowser, c'est ça?
Non, je me disais, est-ce que lui n'envisageait pas de continuer à évoluer au sein de Nintendo et pourquoi pas de finir président à la place de Furukawa qui est arrivé.
Quelque chose avec la Switch aux États-Unis, je suis pas sûr.
Non, bah non,
compliqué parce que ça aurait nécessité qu'il parle japonais et ça aurait nécessité qu'il déménage, je pense, au Japon. Et c'est pas forcément quelque chose que.
Non, bien sûr.
J'en sais rien, je parle
moi non plus, j'en sais rien. Lui, mais... J'essaie d'imaginer les raisons pour lesquelles
mais, il voudrait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de restructurations.
Moi j'ai cru entendre
au niveau japonais etc, donc peut-être qu'ils ont voulu donner un coup de balai en disant voilà on change tout parce que
j'ai cru entendre que c'était des raisons personnelles. Je veux pas spéculer ou quoi que ce soit.
Là tu spécules à fond et c'est les rumeurs et les spéculations.
Voilà, c'est pour ça que je veux pas rentrer dans les détails, mais il me semblerait que c'est pas une décision commerciale ou c'est pas une lutte de pouvoir chez Nintendo ou quoi que ce soit.
Il veut vraiment passer du temps avec sa famille, ses amis.
Imagine qu'être président de Nintendo of America, ça doit bouffer un temps et une énergie absolument incroyable,
surtout qu'il était depuis 2006.
Exactement, donc après autant d'années avoir pris autant de décisions hyper importante pour le marché occidental, je pense que tu peux avoir le droit de
avoir subi Wii Music,
de décrocher un petit peu. Et,
tu vois, je vois les images que vous, là, ah bah là, vous les voyez maintenant pour ceux qui ont la vidéo.
Ceux qui ont la
mais
Toufi
nous passe des images de différentes conférences E3 de Nintendo. Et moi, alors là, c'est purement égoïste, hein, mais ça me fait chier de jamais avoir pu assister à une conf Nintendo. Parce qu'ils ont arrêté d'en faire avant que j'aille à mon premier E3.
Ils se sont dit que t'es arrivé dans le milieu, donc ils arrêtent.
C'est pour ça ils voulaient m'éviter.
Non, ils voulaient l'envoyer directement à toi. C'est comme ça qu'ils l'ont fait.
Remarque, après, quand tu repenses aussi à la présentation de Wii Music, tu comprends qu'ils aient eu envie d'arrêter les coups.
C'est possible aussi. Donc vous comprenez, j'imagine, tous dans l'assistance, pourquoi Reggie Fils-Aimé a été un président du Nintendo of America aimé, apprécié, qu'il a reçu des dizaines, des centaines de messages d'amitié après l'annonce de son départ. Et j'imagine que toi, Traz, en particulier, tu as pleuré devant la vidéo.
Bien sûr, je me suis donné des coups de latte après.
Tu lui as envoyé un petit café ou pas à Reggie?
Ah non, je crois pas. Non, j'ai juste fait un message Twitter. Non, mais moi, dans la vidéo, ce qui m'a marqué, c'est que le mec, il est super humble. En gros, je crois qu'elle dure 2 minutes 30, admettons. Il parle de lui 1 minute et 1 minute 30, il parle de Bowser, quoi.
De son successeur, absolument.
De son successeur, exactement. Donc, le mec, voilà, il a quand même marqué l'histoire de Nintendo, l'histoire du jeu vidéo, on va dire. Et il reste hyper humble et genre voilà, bon voilà, j'ai fait ma part.
Mais il a quand même
comme un japonais quelque part. Voilà, je fais mon boulot, c'est tout.
Il a quand même eu sa vidéo hommage. Ouais. Ce que tout le monde n'a pas toujours.
C'est vrai qu'il
l'a. Oui, mais là, je pense que c'est plus de son initiative, tu vois. Genre, bah, je vais quand même faire ça, quoi.
Non, puis il y a du matos pour faire une vidéo hommage. Le mec, c'est une machine à même, donc.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, mais le truc, c'est que c'est peut-être aussi pour ça qu'il est resté si longtemps et qu'il est monté si haut, parce que tu parlais à la japonaise.
Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il a réussi
culturellement à s'entendre avec des hauts placés du côté du Japon. Et on sait, nous, on l'entend au quotidien avec des attachés de presse, des développeurs, etc. qui ne sont pas japonais, ça peut être compliqué que de travailler avec des japonais, d'un point de vue culturel, parce qu'on fonctionne pas de la même manière. Et lui a réussi à faire son trou là-dedans.
Mais comme tu disais, parce que jamais un mot plus haut que l'autre, etc. Il restait égal à lui-même.
Il a l'œil du tigre quand même. Je pense que dans le business, tu devais pas lui faire à l'envers.
Non, puis t'arrives pas à cette position par hasard de toute façon. Oui, jamais.
Et il avait de la bouteille en plus. Hein. Quand on parlait de Pizza Hut, on parlait de MTV. Il
vient pas de nulle part. On n'a pas de scandale lié à lui par rapport à.
Pas pour l'instant, mais ça va peut-être
venir. Au boulot. Attention. C'est possible.
Traz a des infos.
Non, et là, peut-être il a une grosse accusation d'harcèlement sexuel qui lui pend au nez.
Non, je crois pas.
Qui va débouler.
Probablement pas. Mais en tout cas.
Alors, lui, il est chez Nintendo depuis un moment aussi.
Ouais, depuis 5 ans.
Et apparemment, lui, c'est vraiment un gamer acharné.
Ah oui, on peut parler vite fait de son successeur, Doug Bowser. Donc,
quel nom génial pour
arriver en 2015.
Ils n'auraient pas pu faire mieux que ça.
Mais non, c'est génial.
Pour les premiums qui ont la vidéo, il y a évidemment l'image d'arrivée, la photo d'arrivée de Doug Bowser dans les locaux de Nintendo pour je crois qu'il s'occupait de la partie financière,
les ventes d'abord
et je crois que Poufy va essayer de nous retrouver la photo en question de Doug Bowser quand il est arrivé, qui est très très rigolote puisque il a un panneau merci pour tous les messages super sympa,
merci pour
et que derrière lui eh bien on trouve les peluches de Mario et Luigi attachées tout simplement ligotées.
Pas vu au début, mais... et tu sais qu'il en a fait une autre récemment, enfin je crois que c'est récente, qui est dans le même esprit. Il dit ouais Nintendo Labo c'est génial de pouvoir partager ça en famille, un truc comme ça, et donc il est sur une table en train de jouer à Nintendo Labo et sur une des chaises c'est une peluche d'un Koopa Junior. J'ai trouvé ça marrant.
Est-ce qu'il a les bon
est-ce
il a le nom
est-ce qu'il a les crocs
non non est-ce qu'il a il a déjà le nom ok mais est-ce
le
qu'il a les épaules
50% du boulot
et peut-être le charisme pour pouvoir succéder à Reggie dans cette affaire d'image justement qui peut véhiculer auprès des joueurs qui quand même je tiens à le dire moi personnellement Reggie va me manquer en tant que joueur
honnêtement
c'est une figure qui va vraiment me manquer.
Je pense pas qu'il aura le charisme de Reggie, ça va être difficile de faire mieux que lui.
On verra bien.
Il a de la bouteille aussi après hein. On parlait du parcours de fils aimé juste avant. Lui il était chez Electronic Arts, avant ça il était chez Procter & Gamble. Donc il a fait Pizza Hut lui. Oui, il a pas fait Pizza, d'accord, mais il a pas fait McDo.
On en est à deux interventions de Camille et deux sur Pizza.
Je crois que Camille a pas. Il y a un message.
Il y a un message sous-jacent. Non, mais on verra, mais je pense pas qu'il viendra même comme.
Peut-être qu'il sera quelqu'un d'autre de chez Nintendo of America qui présentera le Nintendo Direct, comme nous par exemple. Depuis que.
Après, tu peux mettre quelqu'un en marketing ou un truc comme ça.
Exactement.
Il n'est pas obligé d'être mis en scène comme Reggie.
C'est vrai. En tout cas, voilà, on tenait juste à faire un gros bisou à Reggie. On espère qu'on te croisera bientôt, frérot.
Salut mon pote.
Et puis on va passer.
Bonne retraite surtout.
Bah oui, bonne retraite, 57 ans.
Profites-en.
Moi bien y être à 57 ans à la retraite.
Puis il doit avoir un peu de sous de côté quoi. Donc ça va.
Un petit pécule.
J'ai cru que tu allais enchaîner avec les employés de la SNCF à un moment. On va passer au thème numéro 2 qui est un petit peu lié à Nintendo, mais ça fait partie, on va dire, des différents sujets qui peuvent être abordés durant ce thème numéro 2. C'est Microsoft, parce que Romain.
Microsoft.
On peut le dire, ça bouge énormément du côté de chez Microsoft. Ça mord.
Franchement, on peut le dire.
Ça bouge énormément et on peut être à l'aube d'un bouleversement profond du fonctionnement de l'industrie du jeu vidéo. Et je dis pas ça pour faire j'exagère ou quoi que ce soit.
Ça fait discours de campagne.
Là, on est, je pense.
Ok, Macron.
on est enfin, là maintenant, on est enfin du cycle classique. Enfin, du cycle qu'on a connu jusqu'à présent avec chaque console dans son coin, ses jeux, etc. Là, si ce qui se. Enfin, c'est ce qui se dit dans les coulisses.
Tout l'écosystème
se
sera bouleversé.
Et est annoncé officiellement. On va vers un gros changement. Et les choses ont commencé à bouger un peu l'année dernière.
Oui, alors justement, on peut revenir sur une interview que tu avais eue avec Mike Ibarra, qui est quand même une machine à la base.
The Machine.
Voilà, qui est quand même une machine, un mec qui. Il n'y a pas un sourire, il n'y a rien qui transparaît.
C'est un génie.
Il sourit, mais il te balance son communiqué de presse. Nous sommes très excités à l'idée que Xbox Live touche 3 milliards de joueurs.
Il balance son Word mot pour mot à chaque truc, quelle que soit la question. Hein. Même si tu lui dis, t'as été chercher du pain ce matin, là il te sort un truc.
C'est pour ça que j'étais étonné de réussir à avoir une vraie réponse à une de mes questions. Parce que
ça lui a échappé. Tu l'as pris sur un moment de faiblesse.
Il a fait. Shut down.
Il s'est déconnecté. Puis voilà.
Ouais, donc tu l'as pris un peu par surprise l'année dernière. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Bon vieux Mike Ibarra.
Avant ça, juste rapidement, parce que ça vient de me revenir à l'esprit, il faut garder en tête que Nintendo et Microsoft ont toujours eu des rapports cordiaux. Et ça remonte loin.
Philou a toujours montré un respect
même avant
extraordinaire.
Ça, si tu regardes à l'époque de la DS, Viva Pinata, qui est un jeu rare propriété de Microsoft, et ben Microsoft avait accepté qu'un portage DS soit réalisé de Viva Pinata. Et donc, sur DS, on a eu un Viva Pinata. Et tu regardes à l'arrière de la boîte, tu as le petit logo Microsoft. Donc, on sait, et après ça, des années après, il y a eu Minecraft. Même après le rachat de Mojang, Microsoft a accepté sans aucun problème que Minecraft. Et ils ont eu raison pour le coup que ça sorte sur les consoles Nintendo. Donc déjà, en termes de rapport constructeur-éditeur tiers, parce que là, pour le coup, Microsoft, c'est un éditeur tiers dans ce rôle-là, les rapports sont bons. L'année dernière, à l'E3, pendant la conférence, Microsoft annonce son intention de lancer un service de jeu via le cloud. Et moi, ça m'a mis un peu... Et en plus, dans la vidéo, il disait « on veut être sur tous les écrans ». Et moi, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille, parce que c'est vrai que t'as les écrans d'ordinateur, t'as les écrans de smartphone, etc. Mais t'as aussi potentiellement les écrans de Switch. Et sachant que Nintendo et Microsoft ont de bons rapports, bah, je lui ai demandé à Mike Ibarra, je lui ai dit, est-ce que ça serait possible qu'à terme, le service de jeu via cloud de Microsoft apparaisse sur les écrans de Switch. Et bah, il m'a dit, en gros, je me rappelle plus
on est ouvert, etc.
Il m'avait dit qu'on a de très bonnes relations avec Nintendo et on est ouvert à cette idée. Nous, on veut se situer là où jouent les gens. Et comme les gens jouent aussi sur Switch, bah c'est un bon endroit où proposer son service. Donc déjà, il n'y avait pas de no comment ou pas de on n'est pas intéressé ou des trucs comme ça. Déjà, tu sentais qu'il y avait de l'intérêt à un début de teasing, peut-être. Je sais pas si c'était un début de teasing, mais en tout cas,
il pouvait pas se retenir en fait. Il s'est dit allez, je vais quand même.
Non, mais même ça fait du bien d'afficher justement tes ambitions, de le dire publiquement. Ça dénote de quelque chose pour la suite.
Après, le nombre de fois où ils se retiennent, on n'a rien à dire pour le moment.
Surtout Ibarra, il doit se retenir, mais genre. Oh
là là. Bah là, ces derniers temps, s'il avait pu se retenir un peu sur Twitter, ça lui aurait évité de raconter n'importe quoi. Mais bon,
Ibarra, alors.
C'est un autre sujet. Donc les choses continuent à se faire discrètement. Pendant ce temps-là. Et au début du mois, c'est là où il y a eu une nouvelle grosse vague. Là, cette fois, quand même plus conséquente. Quand sur le site de la Game Developer Conference 2019, vous savez, les différentes conférences qu'il y aura pendant cet événement sont listées avec une liste des intervenants, les sujets abordés, etc. Et là, il y a une conférence de Microsoft qui évoque texto. Hein. Là, c'est pas de la spéculation ou des sous-entendus ou quoi que ce soit, qui parle clairement de l'arrivée du Xbox Live sur Switch, iOS et Android.
Et voilà, hop.
Voilà, et parce que ils expliquaient comme quoi les Microsoft avec ses infrastructures, là je parle du petit résumé qu'il y avait sur le site de la GDC, hein, avec ses infrastructures, ils pourraient soulager les différents constructeurs ou les différents éditeurs pour s'occuper de la gestion des services dans des groupes d'amis, des parties sociales des jeux, ajouter les succès, etc., gérer le multijoueur, etc., etc.
Ouais, être un bon prestataire de tout un tas de trucs relous dont t'as pas forcément envie de t'occuper.
Voilà, et quand on sait que Nintendo, le jeu en ligne,
c'est pas forcément
fort,
c'est exactement ce que
c'est
j'allais
pas
dire.
Pas forcément.
Alors, ils ont beaucoup, Xbox beaucoup. Live, ça fait quand même bah oui, plus de 19 ans qu'ils carburent.
Et Nintendo, ils y sont venus, mais en traînant des pieds, quoi. Ouais. Depuis le temps.
Et donc, bon, alors ça quand même, Xbox Live sur Switch. Même si là on axe sur Nintendo, mais le Xbox Live, enfin ce type de jeu sur iOS et Android, c'est énorme aussi parce que ça donne
le potentiel.
Ça ouvre un marché énorme à Microsoft, et si les gens souscrivent des abonnements sur toutes ces machines là, c'est jackpot, c'est massif. Mais en tout cas, c'est assez rare de voir des constructeurs de consoles collaborer de cette manière là.
C'est pour ça que ça
nous met la puce à l'oreille. Évidemment, quelques temps après, ça fait le tour du monde et le texte est supprimé du site de la GDC. Mais en tout cas, le mal est fait, entre guillemets, ouais. on a vu les choses. Et ça continue, ça fait son chemin. Et la semaine dernière, début de semaine dernière, il y a une rumeur qui pop. Enfin, c'est un peu plus qu'une rumeur, c'est un des principaux rédacteurs de Game Informer.
Oui, Game Informer.
Un mec qui est très bien informé, qui a par exemple.
C'est, en même temps, c'est son rôle. Hein.
Oui.
C'est un informé du jeu, donc.
Il informe. Voilà. Il avait dit il y a quelques mois que le prochain Zelda arriverait beaucoup plus tôt que ce que les gens imaginaient. Donc, peu de temps après. Link's Awakening qui est annoncé. Bref. Et là, il dit que Nintendo était en train de préparer, enfin, de travailler. Sur un jeu qui avait été publiquement annoncé comme mort et enterré, donc qui avait été publiquement annulé, un projet mort. Et donc, évidemment, ça a généré de la spéculation un peu partout dans le monde, et certaines personnes en sont venues à dire que c'était Scalebound, qui était donc le jeu, l'exclusivité oui. Xbox One développé par Platinum Games, qui avait été annulé avec perte et fracas. Et donc, certains pensaient que c'était Scalebound qui allait être ressuscité sur Switch.
Est-ce que c'est
qui,
le cas?
Moi, personnellement, me semblait très compliqué pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, il y a le producteur du jeu qui a quitté Platinum Games.
Jean-Pierre Kellams.
Ouais, Jean-Pierre Kellams, qui a eu même des petits problèmes psychologiques à l'issue de ce truc-là. Il disait que d'après lui, il y avait très peu de chances que ça soit le cas. Il y a d'autres insiders qui ont dit qu'ils n'y croyaient pas non plus. Mais un insider, en l'occurrence, a dit « Je ne pense pas que ce soit Scalebound, mais… » Microsoft et Nintendo sont en train de travailler sur de très grosses choses ensemble. Là, nouvel indice, et ça va faire partir les spéculations de bon train. D'autres médias ont ensuite, dans la foulée, affirmé de manière catégorique, Et là, aussi bien en France chez jeuxvideo.com qu'aux États-Unis, que même plusieurs médias américains avec chaque fois leurs sources spécifiques, disaient que, bah, en fait, Microsoft serait tout simplement en train de préparer l'arrivée du Xbox Game Pass sur Switch. D'après Game Informer, ça serait même pour cette année, donc c'est quelque chose de très proche. Mais ce n'est pas tout. Il y aurait aussi certains jeux, certaines exclusivités Xbox qui pourraient bénéficier de portages à proprement parler sur Nintendo Switch. Donc les jeux mentionnés jusqu'à présent, il y a Ori and the Blind Forest, ouais, et Cuphead,
qui... juste deux super jeux, quoi.
Ouais, deux super jeux qui techniquement on imagine qu'ils peuvent tourner sur Switch.
Non, mais ce qui est fou, c'est que ça fait une console portable Nintendo, Microsoft. À 0€, quoi.
Bah, ouais. Et puis pour eux, ça leur ouvre un marché sur lequel ils ne sont plus du tout, c'est le Japon. Parce que d'un coup, oui, les Japonais ont une machine avec laquelle tu peux potentiellement jouer à des jeux édités par Microsoft.
Alors après, les rumeurs disent que Ori et Cuphead, ce serait les premières étapes dans d'autres jeux pour arriver ensuite, dont certains jeux du trio magique de Microsoft, c'est-à-dire Halo, Gears et Forza. Alors, est-ce qu'on aura les 3 ou un des 3 ou 2 sur 3, etc. Après, pour cela, si tu as des portages Switch, ce sera certainement des épisodes plus anciens. Mais aussi, pour revenir sur le Game Pass, là, c'est vraiment le gros truc, parce que à terme, l'idée, ça serait de proposer l'intégralité du Game Pass sur Switch. Et parce qu'évidemment, on va pas se leurrer, il y a beaucoup de jeux Xbox One qui ne peuvent tout simplement pas tourner sur Switch. Ce service utiliserait le Project X Cloud, donc le service de cloud de Microsoft, pour faire tourner ces jeux-là sur Switch. D'ailleurs, on sait qu'il y a déjà des jeux qui sont jouables au Japon, en tout cas
en streamage,
jouables en streaming via le cloud,
comme Resident Evil 7,
Assassin's Creed Odyssey. Il y en a quelques-uns comme ça, donc ça passerait par le cloud, et ça renverrait à ce que Mikey Barra nous disait en juin dernier, comme quoi ils n'étaient pas fermés à cette idée. Et donc, alors j'essaye de voir où j'en suis dans mes notes. Mais en tout cas, oui, il y avait beaucoup de choses, donc c'est pour ça que c'est
très riche. Oui, il y avait les journalistes anglais qui disent que ça concernerait aussi la PS4.
Oui, voilà, parce qu'il y a un autre journaliste qui, lui, est plutôt fiable aussi dès qu'il s'agit de Microsoft, expliquait que ça faisait un certain temps, plusieurs mois, qu'il entendait parler de ça, et que lui, non seulement c'était Switch, iOS, Android, etc., mais aussi PS4. Alors autant Nintendo et Microsoft ont de très bons rapports, et je serais pas du tout étonné de voir que ça se fasse. On a vu par rapport au crossplay que Sony aimait mieux jouer tout seul dans son côté.
Ouais, mais il commence quand même maintenant à lâcher du lest.
Un petit peu, mais le Game Pass sur PS4, sachant qu'il y a le PlayStation Now, qu'ils ont leur propre service, etc., etc., j'y crois pas encore.
Oui, je crois qu'on est un peu. Il y a de quoi être dubitatif.
Ça finira peut-être par arriver, mais pas tout de suite.
Rappelez-vous les Game Awards avec sur scène. Les trois représentants.
Oui, mais alors
ça, tu vois.
C'est
un signe aussi, quelque part, je sais pas. Hein.
Sean Layden de Sony a justement dit
que. Quand tu vois ce qui se passe maintenant, tu te dis, attends, mais peut-être que, en fait, les mecs.
Ouais, mais Sean Layden, le boss des Sony Worldwide Studios, expliquait que. Parce que les gens étaient surpris. Enfin, il s'étonnait lui-même de voir que les gens réagissaient à cette prestation.
Une alliance triple,
parce que,
je sais pas quoi,
en fait, lui disait qu'ils sont tous au board, donc au conseil d'administration de l'ESA. L'ESA, c'est l'équivalent américain du CEL. C'est l'organisme qui s'occupe de l'E3 tous les ans. Il disait qu'au sein de ce truc-là, ils travaillent ensemble régulièrement pour différents événements internes à l'industrie du jeu vidéo. Bah, ils ont des intérêts communs,
voilà,
et qu'il fallait pas y voir quelque chose de.
Non, pour eux, c'était pas exceptionnel.
Genre une alliance.
Même si, au fond, réussir à les faire publiquement intervenir. Comme ça, dans un événement tous ensemble, il y a quand même un côté image, un peu exceptionnel.
Mais ils avaient remercié Killy d'ailleurs de l'avoir fait. Je crois que c'est Layden qui.
Killy a dit qu'il avait travaillé dessus pendant plusieurs années avant que ça se fasse. Mais le Game Pass sur PS4, peut-être pas à terme, mais tout de suite, j'en doute. Alors que côté Nintendo, ça me surprendrait moins. Après, je me demande vraiment si, quand ça se fera, parce que ça a l'air d'être quand même bien parti. Comment ils vont réussir à faire cohabiter le Nintendo Switch Online et le Xbox Live, parce que demander aux gens de souscrire à plusieurs abonnements payants sur une seule machine,
pourquoi pas Nintendo Switch Online sur les plateformes Xbox, pourquoi pas un échange de bons procédés entre les deux, tout simplement.
On verra, en tout cas il y a plein de mystères.
Faut harmoniser les tarifs,
ça serait hallucinant.
Il y a plein de mystères autour de cette histoire encore non élucidée, et donc on en saura plus à l'E3, mais parce qu'on pourrait penser que ça s'arrête là, mais non, parce que quand Microsoft dit qu'ils veulent préparer genre le plus gros E3 de leur histoire, je pense qu'ils sont pas loin de la vérité, parce que toujours épion chez jeuxvideo.com,
pas encore lui,
qui et là lui il est catégorique. Hein. Il a dit lourd. Qu'il a travaillé bien sur son sujet et qu'il a plein de sources et qu'il a vraiment attendu d'être sûr à 100% avant de balancer.
Pour lâcher le truc, quoi.
Moi, je te crois,
et,
Loïc.
Et moi, j'ai totalement confiance en lui aussi.
Juste parce qu'il est plus grand que moi.
Il expliquait que les deux versions de la Xbox Scarlett seraient dévoilées pendant la conférence Microsoft de l'E3 2019.
Donc, on a deux noms de codes différents.
Ouais, donc, tu aurais la Scarlett Lockhart, qui est la console d'entrée de gamme, mm-hmm. avec une puissance moindre et une config plus petite, enfin plus faible, et qui se concentrerait sur le démat et le streaming. Et à côté de ça, l'Anaconda, avec un tel nom, hein, c'est pas surprenant.
Thierry Henry, si tu regardes.
L'Anaconda, qui serait un peu l'équivalent en Scarlett de la Xbox One X, c'est-à-dire la machine de guerre avec un prix de vente plus élevé, mais quand même des specs. Non, apparemment, il parlait aux alentours du prix de la Xbox One X lors de son lancement, c'est-à-dire aux alentours de 500. Mais avec une puissance, console top du top. Et toutes les deux, par contre, auraient un disque dur SSD, d'après les informations.
Chargement, tout le monde va le faire, ça, à mon avis, hein. Ouais, maintenant.
Et dernière info, Halo Infinite serait un jeu de lancement Scarlett, mais il sortirait également sur PC, ça on le savait déjà, mais il sortirait aussi en cross-gen avec sur Xbox One. Donc, potentiellement, je crois que s'il y a tout ça, il va leur falloir une conf de 4h30, parce qu'il va y avoir des choses à dire.
Bah, ouais. Surtout qu'en plus, à chaque fois, leur conf 3, maintenant, ils tabassent avec
soit c'est que des jeux,
80 jeux genre, l'un après l'autre, voilà, un petit message peut-être de Bonnie Ross qui passe peut-être par ici, un autre développeur japonais qui passe peut-être par là, mais
là pour le coup ça va surtout être du hardware, hein, quand même.
Du hardware, du jeu avec Infinite, peut-être des nouvelles annonces, parce qu'il y a aussi le studio qu'on suppose en train de développer.
Oui,
on est quasiment sûr qu'il il y a des initiatives, mais il y a aussi le studio qui travaille sur Fable.
Oui, c'est vrai.
On sait que Gears of War 5 sort cette année, donc va falloir le présenter.
Exactement.
Donc, je pense qu'ils vont réussir à trouver un peu de
plus tout. Comme disait Thomas, tous les studios qu'ils ont rachetés, Inxile, Obsidian,
et peut-être encore d'autres.
Et peut-être encore d'autres, Ninja Theory,
sans doute
d'autres.
Apparemment.
Et juste un truc que tu as oublié de préciser, c'était toujours dans les affirmations de Loïc, c'est que les deux consoles sortiraient a priori pour la fin 2020. Donc présentées là cette E3 2019 pour une sortie à la fin de l'année.
Le timing est respecté,
cohérent avec ce qu'on suppose depuis quand même un certain temps.
Ça fait longtemps que
pour moi, c'est d'autant plus cohérent que ça sorte en 2020, que si jamais ils avaient dans l'idée de sortir cette console-là encore plus puissante que la X en fin d'année, ce serait pas du tout cohérent avec le fait qu'ils veulent, enfin que les développeurs ont besoin d'uniformisation entre la PS4 et la Xbox pour pas qu'il y ait des jeux qui soient
en retard
d'une console à l'autre, et ça aurait aucun sens, quoi.
Oui, alors parce que là, on sait déjà que par exemple entre une PS4 Pro et une Xbox One X, pour réussir à avoir quelque chose d'égal qui tire parti de la Xbox One X,
chez DICE, on me l'avait confirmé, la Xbox One X est effectivement une puissance de calcul bien plus puissante que ce qu'on pense. Et en fait, ils sont obligés de se brider, les développeurs, pour pas proposer une version trop belle, sinon il y aurait trop de différence avec la PS4 Pro. Et donc du coup, on peut imaginer aussi la même chose pour la Xbox.
Puis même, ça fait des heures de travail en plus, tout ça.
Ça fait des heures sup, ouais.
Voilà, donc
payer le double grâce à Macron.
Et
c'est vrai.
Et il semblerait aussi qu'on ne soit pas au bout de nos surprises en ce qui concerne la conférence Xbox. Donc là, j'ai l'impression qu'ils comptent bien profiter de l'absence
Sony à l'E3, ouais.
L'absence de Sony.
Enfin, l'absence relative, hein, parce que je pense qu'ils vont pas m'occuper le terrain, plus ou moins.
On verra bien. Avec et après, choses, peut-être que Google viendra se greffer.
C'est vrai qu'il y a Google qui doit faire la présentation, probablement.
Donc, c'est quand pour Google? 19 mars à 19h.
Ouais, c'est très bientôt.
Ça va te retenir, en fait, c'est pour ça.
Ah non, c'est parce que toi, tu retiens les chiffres.
La conf de Google, elle se passe pendant la GDC.
Absolument.
Donc, potentiellement, alors certains disaient que l'E3 de cette année, ça allait être à balayer d'un revers de la main. Ça pourrait être une édition plutôt sympatoche.
Bon, il y aura plus Reggie, par contre, ça c'est chiant, mais
bon, il sera peut-être là quand même. Il va faire
un petit golf à côté. Non, mais quand même.
Et s'il allait chez Microsoft, Reggie, en fait, c'est malin.
Ah bah c'est peut-être ça. Non, ce sera pas ça. Non, mais une alliance Nintendo Microsoft. Microsoft qui est prêt à balancer des cartouches monstrueuses. Et pendant ce temps-là, Sony qui est absent. Sony, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Ils vont être obligés de changer leur agenda.
Après, ils ont le luxe pour Sony dans cette situation-là, c'est qu'ils peuvent observer ce que les autres font.
Oui, c'est les leaders.
Et s'adapter en conséquence. Alors après,
ce qui a souvent été leur stratégie, oui, d'ailleurs.
Il y a certaines choses qui ne pourront certainement pas être modifiées en profondeur, mais tu peux t'adapter. Tu peux changer des trucs.
Comme je l'avais fait pour les prix, etc. Tiens, allez, on va mettre une petite étiquette.
Tu peux revoir ton calendrier d'annonces, etc. Ouais. Il y a pas mal de choses, effectivement, que tu peux moduler.
Un jeu que tu comptais annoncer plus tard pour te le garder sous le coude, tu peux faire un petit teasing plus tôt pour marquer les esprits. Tu peux baisser le prix que tu avais prévu pour ta console au dernier moment. Il y a toujours des leviers.
Mais attention à l'excès de confiance.
là on
comme
parle
dirait un vieux sage.
Là on parlerait d'un nouveau hardware pour Sony. Ce serait la prochaine grosse étape.
Ah oui,
ah bah oui,
oui
bien sûr. Si, je pense que si. Bah, déjà ils l'ont dit. S'ils sont pas à l'E3, c'est parce qu'ils s'estiment
parce qu'ils travaillent.
Ils estiment qu'en termes de calendrier, ils ont pas assez de choses à montrer. Ouais. Et s'ils ont pas assez de choses à montrer, pourquoi? C'est parce qu'ils préparent le lancement de la PS5.
Le big one.
Et ils veulent envoyer des trucs lourds avec.
Peut-être un PSVR 12, etc.
Il y aura certainement l'évolution du PSVR. Est-ce que ça sera d'entrée de jeu ou est-ce que d'abord il y aura la console dans un premier temps et ensuite on verra
voir comment ça se passe.
Je sais pas. Bah, mais là encore,
faut se rappeler de l'exemple de Microsoft avec justement Kinect qui était obligatoire avec la One quand elle est sortie, qui a plombé, enfin qui a tiré le prix de la console vers le haut.
Mais PSVR, ce sera jamais obligatoire.
Non. Oui, non,
mais
voilà. Pas cette erreur.
Oui, mais le fait de le proposer psychologiquement, le prix du pack, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent dans l'esprit des consommateurs.
Si le prix est
et on a justement des exemples dans l'histoire récente de ce qui a pu se passer. Donc, je pense qu'ils sont très attentifs aussi. À
annoncer les deux en même temps, ça serait pas forcément une bonne idée parce que psychologiquement, tu dis ouais, alors si je veux tout, ça va me coûter tant.
Exactement.
Et c'est pas forcément un bon calcul.
Bah,
Camille.
Pizza Hut donc.
En termes de hardware, c'est vrai que de ce qui se murmure, même la PS5 et la Xbox One Scarlett Anaconda, finalement, elles auraient quelque chose assez proche en termes de processeur, etc., puisque les deux auraient du matos AMD, et donc du coup AMD ils vont pas non plus développer des milliers de choses différentes pour l'un et l'autre constructeur.
Oui.
Donc à mon avis l'architecture risque d'être quand même assez proche.
Et puis ça arrange tous les développeurs aussi, enfin tous les tiers qui développent sur les deux.
C'est ça. Oui,
comme
oui.
le disait Plumeau, c'est un gain de temps, d'énergie, etc.
Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas de nom de code Johansson pour Scarlett. Bon, okay, c'était. Oui, tu disais.
Oh la vache.
Alors, dans le genre, personne l'a fait.
Je comprends deux minutes pour repenser à la blague.
Pas de replay,
pas de replay, s'il vous plaît, ça suffit.
On laissera évidemment toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent se charger de faire
des cuts.
Non mais tu vois aussi il y a aussi l'idée de Microsoft, et ça fait quoi depuis début 2016 ou 2017 de mémoire, concernant la fin des générations. Le fait qu'Halo Infinite par exemple sorte aussi sur Xbox One, ça irait dans ce sens-là, et ils veulent en fait que les jeux consoles deviennent presque comme des jeux PC ou En fonction de la console que tu utilises, bah tu peux faire tes réglages et profiter plus ou moins.
Surtout qu'ils jouent double jeu, puisque tu fais une belle perche pour ça, c'est que pareil avec le PC, ils veulent uniformiser le jeu. On le voit avec leur système de jeux qui sortent à la fois sur PC et Xbox One, alors qu'il y a encore quelques années, on n'aurait pas imaginé ça. Quoi.
Tout et ça pareil, pour sortir Tetris 99.
Le PC, même si on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, en France, c'est pas une énorme part de marché.
C'est pas mal.
Oui, mais je veux dire, par rapport au monde...
Attention à ce que tu dis, Camille.
C'est plus d'un tiers.
Ouais, mais par rapport au monde, c'est encore rien du tout. Ce qui est quand même c'est tous les marchés émergents comme la Chine qui, eux, sont 100% sur le PC pratiquement.
Absolument.
Donc, c'est pareil, Xbox, ils ont de ce côté-là des choses à conquérir. Et ça, c'est. Enfin, vraiment, ils ont vraiment pas mal de choses. Ils sont sur un bon move, je pense. Puis, toutes les rumeurs de rachat de studio, il y en a encore un qu'on a publié sur Gameblog aujourd'hui. Ils seraient en train de racheter Relic, qui est quand même un énorme monument du jeu PC. Donc, il y a quand même des belles choses qui se préparent chez Microsoft, c'est sûr.
Bon, en tout cas, les semaines qui viennent vont être.
Je sais pas ce que t'en penses,
vont être passionnantes.
Vivement la suite.
En fait, tout ça va être absolument passionnant et on a hâte de voir ce que Microsoft et Nintendo nous réservent, et évidemment Sony aussi au passage.
Et vivement que ça sorte
sur Switch.
Donc on attend que la
en boîte, s'il vous plaît.
La Xbox sorte sur Switch.
Parce qu'on attend une version boîte de Cuphead depuis quand même un moment.
Une boîte avec le jeu dedans.
Oui.
Parce que la version boîte de Cuphead, elle existe déjà. Voilà, merci.
Bon, eh bien écoutez, je pense que. On a dit tout ce qu'on avait à dire concernant la partie Microsoft bouge énormément. Évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous pensez de toutes ces informations. Non, parce que moi Loïc, je crois en lui. Vraiment.
Je pense que Loïc,
les mecs de plus d'un mètre 90 qui font 30 kilos de plus que moi en général, je les crois.
C'est vrai ?
Ouais. En général.
En fait, l'acheter ou pas ?
La confiance de Plumeau est uniquement basée sur la peur.
Ou
faut savoir.
Et surtout que Pion, il a 50 paires.
Donc tu n'accordes aucun crédit aux enfants du coup. Ok, d'accord.
Désolé. On va passer au thème numéro 3 maintenant. Camille, c'est toi qui vas nous parler d'Anthem.
Le bien nommé Thème.
Que tu as eu l'occasion de tester quand il ne crachait pas.
Ouais.
Évidemment.
En plus, BioWare. Ici, je suis pas premier à l'avoir vu puisque notre cher Romain l'avait vu aussi et Thomas aussi du coup. Donc on l'a pratiquement tous vu ici. On y a tous pu y jouer.
Et toi, tu l'as vu.
Et alors effectivement, donc voilà, le jeu est sorti. Comment vous dire, alors avant qu'on m'accuse de faire de la mauvaise foi, c'est vrai.
Salut
que
mon pote.
Le jeu n'est pas une catastrophe. Soyons clairs tout de suite là-dessus.
Mais c'est ce que beaucoup pensent. Même qu'on y joue.
Quand tu vois la note, tu te dis si quand même c'est une mini catastrophe quand même.
Mais c'est pas
pour un jeu de ce budget.
Ouais, c'est ça. Pour un jeu de ce budget, mais en soi, c'est pas une catastrophe.
Exagéré sur internet, Camille, mais non, ça, ouais. n'arrive, ça n'arrive jamais.
Mais enfin, Camille, là,
tout est dans la mesure sur internet, ouais, tu le sais ça. Bien.
Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que si vous avez souvenir des démos de l'E3 qu'on avait vu, c'est qu'il y a eu quand même un énorme downgrade, encore une fois, qui a eu lieu.
Tu trouves
clairement, ouais.
Ah, c'est, bah, si, c'est... Moi, je suis...
Le jeu, non, le jeu est splendide, ça, non, c'est sûr.
Ça reste beau quand même.
Mais il a été downgradé. Si tu regardes, il y a une vidéo, je crois, c'est. Qui a publié ça? Je crois c'est Eurogamer, bah, comme d'habitude.
Ils ont fait un comparo?
Ils ont fait un comparo entre la version, les versions E3 2018, ou c'est qu'en 2007 ça a été prononcé en première fois.
Il avait été présenté en 2017,
ouais. 2017, 2018. Ouais, mais ils ont montré aussi une démo en 2018.
Oui, 2018.
Et avec la version finale, je t'assure que ça n'a rien à voir et qu'il y a vraiment des choses qui ont été.
Oui, mais tout le monde le fait, ça.
Oui, non, mais c'est. Bon, c'est juste.
Après, quand on lance le PC, ça quand on lance sur ton PC ou sur le mien, le jeu
est une tuerie technique.
Ça dégage.
C'est clairement
par
là-dessus.
Contre, il vous faut une télé 4K, hein, parce que moi, j'ai pas de télé 4K chez moi. Je peux vous dire que c'est pas du tout ce que je vois à la rédac. Hein.
Ouais. Ça, c'est vrai aussi.
C'est super moche à côté.
Après, donc, nous, on a fait le test sur PC. On a fait aussi un petit temps. Enfin, on a parlé un peu vite fait de la version Xbox, parce qu'on a quand même, on l'a quand même fait tourner. Julo, on a testé, parce que c'est lui qui a eu ce privilège. Et alors, comme le titre l'indique, c'est une vitrine technologique. Donc effectivement, le jeu pour l'instant, c'est clairement l'un des plus beaux jeux monde ouvert, ouais, à l'heure actuelle, pour plusieurs raisons. Alors, vous avez pu vous en rendre compte vers les diverses vidéos. Déjà, les animations faciales sont extraordinaires. Dans les cinématiques, c'est tout bonnement somptueux. Les effets de lumière, les textures, ça reprend vraiment le travail qui avait été fait, toujours c'est le Frostbite, hein, le travail qui a été fait sur Battlefront 2 il y a encore un an, ou Battlefield 5, c'est-à-dire des textures qui sont vraiment très fines. Contrairement à certains jeux où ça paraît beau de loin, et dès que tu t'approches un peu sur les textures, tu sens que c'est pas forcément ça, bah là ça fait le taf vraiment partout, c'est-à-dire que tu t'approches sur les textures de feuilles, d'herbes, etc. Toutes les feuilles sont modélisées les unes sur les autres, enfin il y a vraiment un travail de profondeur qui est fait, et sur PC c'est d'autant plus bluffant qu'il y a des technologies Nvidia derrière qui travaillent, comme le DLSS qui font leur office. Donc techniquement c'est une
tuerie. Attends, je trouve que t'as été très rapide sur les animations faciales.
Oui.
Les visages,
oui,
c'est absolument.
Ouais. L'animation faciale.
Non, mais c'est du jamais vu.
Le labial, ouais. Moi, bah, jamais vu.
Mieux que les noirs.
Mieux que tout. Vraiment, il y a le personnage d'Owen, le mécano là qu'on croise au début. Ces animations faciales, c'est tout simplement du délire. C'est, je veux dire que chaque inflexion, chaque intonation a l'expression du visage, le gonflement de joue, le tout ce qui va avec est parfait.
Ouais.
C'est vraiment complètement bluffant. Pour moi, c'est le truc le plus incroyable du jeu, avec la liberté de déplacement.
Oui, mais ça, c'est encore. J'étais resté sur la technique.
Bien sûr.
En technique, tout n'est pas parfait. Parce
la technique pure dans le graphisme. Tu vois.
Parce que moi, je joue sur Xbox One X. Je peux vous dire que j'ai vu des morceaux de squelette par terre. Tu t'approches à un mètre.
Et ils disparaissent.
Les trucs disparaissent.
Ouais, ça c'est encore autre chose.
Un peu, ça revient, ouais. Etc.
Bah justement,
je vais jouer sur PC.
Alors ça, j'ai fait. Ouais. C'est pas possible. Attends, c'est rien ce truc à afficher. Pourtant, si.
Donc là, bah justement, ça rejoint aussi un truc. Et d'ailleurs, il y a un des ponts de Dieck qui fait une déclaration là-dessus, c'est qu'en fait, le moteur Frostbite n'est pas adapté au TPS. Puisque c'est un moteur qui a été créé uniquement pour du FPS, notamment il a été créé pour Battlefield à l'origine. Il a été ensuite adapté à Battlefront, qui propose lui aussi des phases de TPS, mais ce n'est pas un moteur qui est fait pour le TPS. Du coup, ils ont dû s'adapter à certaines choses, un peu comme Star Citizen a dû le faire avec le CryEngine. Le CryEngine lui aussi est un moteur uniquement FPS. Ils ont adapté les phases TPS, sont très difficiles. Et là, il y a eu un peu le même souci aussi qui a été là-dessus, quoi.
Mais au fond, c'est pas le problème du joueur, ça.
Bah non, c'est pas ça.
Oui, mais il en subit les
conséquences.
Les phases de FPS, c'est quoi? C'est 5% du jeu.
C'est 5% du jeu, en fait, les phases
FPS.
C'est
les phases narratives en ville.
Exactement, c'est les cinématiques, les dialogues et les phases en ville.
Même si ça permet de se rendre compte, comme le soulignait Plumeau, des efforts qu'il y a eu au niveau de la synchro labiale, etc.
Mais après, comme disait très justement Traz, effectivement, en termes de tout ce qui a les à côté, on va dire, c'est pas parfait parce que il y a des bugs qui sont très nombreux.
Mais moi, ça m'a vraiment surpris de voir ça quasiment dès le début du jeu sur un truc ridicule, quoi.
Mais surtout pour un triple A de cette envergure, quoi.
Attends, mais c'est quoi ce truc affiché là? C'est peanuts et le truc il disparaît, quoi. Donc, okay.
C'est vrai, il y a ça. En plus, le jeu impose des chargements extrêmement longs pour tout le temps, enfin, à chaque nouvelle étape du jeu, tu te tapes un chargement. Il y a aucun moment, en fait, ça coupe tout, ça coupe le rythme du jeu, puisqu'il y a même, plus de transition. C'est les transitions, c'est des, on dirait qu'elles sont même pas réfléchies. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux, les transitions, elles sont logiques. C'est-à-dire que tu rentres dans un bâtiment, tu t'attends à ce qu'il y ait peut-être un mini chargement si le jeu est vraiment splendide. Là, c'est-à-dire que des fois, tu sors même pas d'une grotte, c'est la même grotte. Tu passes juste d'une salle à une autre et tu te tapes un chargement.
T'as le temps de te faire un café.
Tu rigoles, mais c'est vraiment ça. Il y a des moments, on l'a calculé avec Julo sur Xbox One X.
Justement.
Il y avait 1 minute 40 de chargement. 1 minute 40. Ça paraît court quand on dit comme ça, mais c'est énorme.
Non, ça paraît pas court du tout.
C'est énorme pour un temps de chargement.
Non, mais ça paraît court. J'ai pas eu ça pour l'instant, je t'avoue.
Quand on le dit. Quand on le dit, ça paraît court.
Quand on le dit, ça paraît court. Voilà. Mais quand t'attends devant l'écran, c'est très long.
Déjà, 15 secondes de chargement, c'est énorme. Alors, j'ose pas imaginer.
Et donc,
je voulais aussi dire autre chose, Camille, si tu parles. Justement, tu parlais de faire un café et de revenir, d'avoir le temps de faire ça.
Tu vas te faire un café, c'est ça ?
En gros, c'est ce qui m'est arrivé chez moi. Je me suis. J'ai été faire autre chose, je sais plus pourquoi, j'avais mis pause. Je reviens, j'ai été déconnecté. Ouais. Et hop, tu reviens au menu principal et tu dois recommencer la mission quoi. Ouais. Alors que j'avais quasiment fini.
Bah ça c'est
et ça je savais pas. Et je trouve ça scandaleux.
C'est que c'est 100% en ligne quoi, 100%
ouais,
en ligne.
Moi ça m'énerve.
Mais oui, mais c'est
tu devrais avoir je sais pas un petit morceau
futur. Un backup. Le futur sous connecté, ouais.
Un petit morceau en RAM qui te refait revenir vite quoi, enfin.
Et bah justement,
je comprends même pas qu'on puisse pas
d'un point de vue du joueur.
C'est ça, c'est juste un petit morceau en RAM qui fait que voilà, tu reviens sur dans la partie 3-4 secondes après avoir enlevé la pause quoi, mais là c'était pas possible.
Bah ça rejoint, ça rejoint un défaut majeur du le fait que le jeu soit 100% multijoueur et qu'en fait il a beaucoup de mal, il est un peu entre deux chaises en ce sens où il y a des missions que tu peux faire totalement solo et des missions obligatoires en coopération et du coup c'est très problématique puisque le jeu en fait a beaucoup de mal à s'adapter à ça et ça rejoint ce que disait Tra, c'est que du coup même les phases en solo comme le tutoriel sont pensées comme du multijoueur et donc du coup si tu te déconnectes pour
c'est
jeu
pas logique.
Bah c'est pas logique dans le sens où quand tu quittes une mission en multijoueur les gens qui sont avec toi ils vont pas t'attendre, ils vont
en multijoueur mission. Là, en l'occurrence
j'étais solo. c'est ça le problème,
c'est que
tout jeu est pensé comme c'était en multijoueur et donc du coup il s'adapte à ça et effectivement quand tu le tutoriel c'est un exemple, si jamais t'as un problème technique ou quoi que le jeu crache puisque ça arrive moi à la rédaction on a quand même un PC qui a une 2080 Ti donc ce qui se fait vraiment de mieux avec un processeur du feu de Dieu et le PC s'est éteint. Le PC s'est éteint.
Ah oui, je me souviens.
Et le deuxième bug qu'on a eu.
Moi, je peux t'en dire un chez moi.
Vas-y, tu peux aussi.
Je peux t'en dire deux chez moi. Déjà, le premier, c'est quand j'ai passé le jeu en français, il a refusé de se relancer à nouveau.
T'as dû réinstaller le jeu.
Et là, après avoir installé le patch Day One, le jeu, je pouvais plus le lancer.
C'est ça.
Bah oui, d'accord.
Là, je peux plus le lancer. Je l'ai même désinstallé chez moi parce que même en faisant réparer les fichiers, ça n'a pas marché. Donc voilà, j'ai ma partie qui est quelque part dans le cloud qui servira plus jamais.
Mais en plus, vas-y.
Je sais pas ce que t'as entendu, Camille. Enfin, si t'as entendu des choses à ce niveau-là, mais il semblerait qu'en fait, EA ait poussé BioWare à sortir le jeu alors que le développement était clairement pas terminé.
Ah bah ça c'est clair, mais ça se ressent dans le jeu que c'est pas terminé. Il y a deux aspects qui se ressentent. C'est qu'à la fin on a l'impression que le jeu est cisaillé pour proposer du contenu sur le long terme, ça vraiment on le ressent mais tout de suite.
Oui, ils l'ont dit de toute façon.
Ouais, ils l'ont dit mais le problème c'est que ça se ressent, il y a des jeux ils le disent, c'est prévu mais ça se ressent pas forcément. Par exemple Battlefield 5 quand c'était sorti c'était fait pour durer sur le long terme mais ça avait pas l'impression d'être cisaillé quand même comme ça. Là c'est très cisaillé, déjà le endgame c'est deux donjons et deux boss et puis c'est fini, donc déjà c'est vraiment une grosse
problématique. Et en termes de variété d'objectifs etc, tu restes face à des situations que tu as déjà pu expérimenter, il n'y a rien de véritablement très nouveau si ce n'est la palette d'armes et de compétences que tu débloques en arrivant au niveau 30. Quoi.
Pas mal de quêtes redondantes aussi au bout d'un
certain
temps.
Ouais, c'est ça, mais pas que les quêtes, tout est un. Enfin, en fait, le truc, c'est que le jeu peut se séparer, on va le séparer en deux phases. T'as la phase d'émerveillement qu'a pu vivre, expérimenter.
J'ai bien connu.
Parce
que le design,
les plumes,
les fichiers disparaissent.
C'est vrai que c'est tellement beau.
L'univers, il est magnifique. Tourner,
c'est ça. Vraiment. Non, mais surtout que t'as le côté Iron Man qui est très.
Oui, bien sûr.
Vraiment très bien foutu.
Ça fait penser
que le côté grisant de fait de pouvoir voler en vol libre en plus.
Non, mais en plus, la maniabilité est parfaite.
La maniabilité est parfaite. C'est vraiment excellent. C'est aussi bien pensé sur PC que sur console. À ce niveau-là, c'est génial. Le problème, c'est que une fois passé cette phase d'émerveillement et de magie, au bout de, on va dire 5 heures, c'est un peu l'étape phare.
L'étape clé,
et t'as l'impression de faire le tour du jeu en fait. C'est-à-dire que tu retrouves tout le temps les mêmes ennemis. C'est-à-dire qu'il y a 4 types d'ennemis que tu te tapes pendant 15 heures, ce sont des loups, les membres de la secte,
les scorpions,
mini-araignées, mini-scorpions. Ils n'ont pas mis ours, mis sanglier, n'est-ce pas, mon cher Thomas?
Et les golems. Ah, les golems.
Et non, les golems, c'est plus tard. Okay, les titans, c'est un peu plus tard. Et les espèces d'oiseaux, c'est les seuls trucs qu'on retrouve. Et on se retape sans cesse la même chose. Mmh. L'émission, c'est pareil. T'as l'émission de libération et l'émission où tu dois récupérer des orbes dans le décor qui font peut-être partie du tuto. C'est-à-dire, quand tu fais l'émission du tuto, en fait, t'as déjà un bel exemple de ce que tu vas être amené à faire plus tard. Et ça, c'est le problème, c'est que proposer un jeu en coopération, tu dois récupérer des orbes dans le décor. Mmh. Bah, pour un jeu AAA de cette envergure, c'est quand même assez décevant. Et puis voilà, tu retrouves les mêmes trucs. Ce que je disais aussi à Poufi la dernière fois, c'est que même d'un point de vue de construction technique et artistique, il y a certains éléments, ils ne sont même pas fait chier à reproduire des décors spécifiques. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes décors, ouais, pour deux objectifs différents qui n'ont pas forcément à voir. Non, par exemple, on doit libérer des otages, donc des membres du fort.
Putain, tu spoil à fond.
Ouais, non, parce que c'est vraiment très début du jeu.
Des arcanistes.
Des arcanistes, tu dois libérer les otages. Ils sont dans des espèces de petites cages machin. Ensuite, tu dois libérer des orbes genre 2-3 heures plus tard dans une autre mission. Ils sont même pas fait chier, c'est les mêmes cages, les mêmes bâtiments, les mêmes trucs. Ils sont même pas fait l'effort de changer ça. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on a l'impression que le jeu est vraiment sorti trop tôt et qu'il y a des choses qui ont été volontairement cisaillées pour pouvoir proposer du contenu sur le long terme. Même si certes, ils ont pas prévu de season pass payant, etc. C'est censé être gratuit. Et ben ça la fout mal pour un jeu de cette envergure qui soit si vide, dès la sortie. Quoi.
Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu un problème dans ce moment, tu vois.
Du jeu connecté.
Genre des jeux services qui finalement sortent, mais pas avec le bon équilibre en termes de contenu. Tu vois, on se rappelle de Sea of Thieves qui a eu exactement le même problème.
Fallout 76.
C'est maintenant que c'est bien, alors que c'est sorti il y a déjà un bout de temps. Quoi.
En fait, voilà, ils n'arrivent pas encore à comprendre, à trouver le bon juste milieu équilibre, entre.
Ils n'arrivent pas à dire qu'on sort en early access, tout simplement.
Ouais, c'est ça.
C'est ça le truc. C'est le jeu, s'il n'est pas fini, normalement, tu le sors pas.
Parce qu'ils veulent te faire lâcher 70.
Ça revient à ce que disait Camille, en fait, à partir du moment où t'as véritablement l'impression qu'on a amputé une partie de ton jeu pour pouvoir te la servir plus tard, c'est frustrant dans tous les cas de figure, que ce soit maintenant, que ce soit avec les premiers DLC où t'avais justement cette impression il y a quelques années. Mais alors, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais pour le coup, moi j'ai le souvenir qu'il y avait une complémentarité des classes à l'intérieur du jeu
qui était
plutôt plaisante en multi, avec laquelle tu pouvais en tout cas un petit peu t'amuser le temps de trouver ton personnage et les compétences qu'elle est bien.
Exactement, t'as un potentiel qui est là, qui est bien présent, t'as la customisation qui est intéressante, mais quand même malgré tout.
Le menu des customisations est affreux.
Oui, le menu est affreux, mais c'est les possibilités qui sont données, notamment en termes de couleurs, etc., de customisation, sont sympathiques.
De texture aussi, c'est hyper varié.
Ouais, exactement. Par contre, faut pas non plus. Faut pas leur faire à l'envers, les trucs sont quand même payant, c'est-à-dire qu'il y a une grande majorité des casques,
des cosmétiques
qui sont payants.
Ah bah ils auraient dû sortir un free-to-play et puis
voilà. C'est ça. En fait, l'aspect,
ils ont dû faire ça.
C'est l'aspect qu'on a, c'est qu'on a l'impression en fait d'avoir accès à. En fait, ça serait un free-to-play, ce serait pas choquant.
C'est ça, comme Fortnite, c'est ce qu'ils ont fait. Hein.
Exact. Bah ouais, c'est ça.
Ils vendent les skins, les emotes de merde. Et
oui. Alors que là,
franchement, et puis ils font des mises à jour toutes les semaines.
Mais le problème c'est que là pour l'instant ça fait déjà une semaine que je l'ai sorti, il n'y a pas une mise à jour majeure qui a rajouté du contenu.
À part le patch day one quoi.
C'est tes extraits ça?
Non, ça c'est.
D'accord, parce que la combinaison de couleurs est dégueulasse. Hein.
Non, c'est.
Ah oui, c'est vrai qu'on dirait un pyjama rayé avec.
Bah, c'est la tenue Hulk Hogan, rouge et jaune.
Ouais, ou Ronald McDonald du futur.
C'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté avatar, mais du pauvre.
C'est ça, bah, c'est ce que je dis dans mon
test. C'est vrai que c'est ce que tu dis. Et que Julo me disait.
C'est
vrai qu'il a écrit ça.
Mais Julo me disait, mais pourquoi ça ressemble à Avatar?
Oui, mais après, c'est vrai que. Ouais.
Bah, ça ressemble à Mass Effect aussi. Hein, quand
mais
même.
C'est vrai que t'as quand même. Oui. Bah, de toute façon, oui, on retrouve aussi ça, c'est que t'as l'impression qu'il y ait des assets qui soient réutilisés. Tu sens. C'est BioWare qui est derrière, quoi. Tu ressens quand même la patte technique. Après, voilà, l'ambition, elle est là. Les classes sont sympathiques, sont bien complémentaires.
C'est quand même vachement bien fait, quoi.
Si, c'est. Les classes sont très sympas. On a vraiment des classes qui complémentarisent.
Qui se complètent.
Très complètes, ouais.
Ok, Jean-Claude.
Ouais. De très belles manières. D'autant plus que. D'autant plus qu'il y a des missions qui sont quasiment, surtout vers l'endgame, obligatoires à faire en coopération. Et le fait d'avoir des classes comme ça qui se complètent bien, ça rajoute vraiment une plus-value. Après, voilà, une grosse partie du jeu peut être jouée en solo, et ça c'est un peu problématique, puisque encore une fois, le jeu est un peu entre deux chaises. Quoi. On sait pas vraiment, ils imposent pas vraiment la coopération, sans vraiment, en te laissant la possibilité de faire du solo. Enfin, c'est très étrange comment c'est fait. Et puis le gros problème aussi, c'est, je vous l'ai dit, c'est le problème de diversité, quoi. En fait, le monde ouvert a l'air gigantesque, mais en fait on fait vite le tour du truc, en fait.
Pas si gigantesque gigantesque.
Comme
ça,
c'est
quoi.
Un jeu BioWare, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait une histoire qui soit pas trop mal, qu'il y ait un folklore qui soit quand même assez
bête, pas trop dégueulasse.
Bah alors, en fait le c'est pas dégueulasse non plus, ça, voilà, parce que j'ai vu dans les commentaires c'est vraiment une merde et tout. Non, c'est pas à ce point là on a quand même des trucs qui sont on sent qu'il y a un travail qui a été fait pour proposer un lore et un background qui est intéressant.
Le mot la mode le lore.
bah non mais c'est vrai, c'est ça. Et du coup t'as l'impression que tu sais qu'il y a des auteurs qui ont travaillé dessus pour rendre le truc cohérent, mais le problème c'est qu'il y a des choses qui sont pas très logiques, par exemple des fois pour comprendre la substantifique moelle du scénario, t'es obligé d'aller dans les codex pour te taper des lignes de dialogue qui n'ont aucun intérêt et pour comprendre bien en fait ce qui se passe. Sinon, les cinématiques, si tu passes à côté, elles ne se suffisent pas en elles-mêmes.
Mais c'est pas ce que veulent les fans de BioWare, justement.
Ouais, peut-être.
D'aller creuser un petit peu.
Ouais, mais dans un RPG, chercher des documents. Dans un RPG, mais ça, c'est pas un RPG, c'est un jeu d'action. RPG, oui.
Là, on n'est pas dans un Mass Effect.
L'action immédiate, c'est RPG, quoi.
Enfin, d'ailleurs, les gens. C'est le gros point fort du jeu, c'est les combats, en fait. Le système de combat est grisant, c'est très rapide, c'est très fun, etc. Sauf que tout ce qu'il y a autour, c'est mal foutu, quoi. C'est mal branlé et ça pourrait être beaucoup mieux fait. Quoi. Ça pourrait être vraiment mieux fait.
Bon, donc malheureusement, ce jeu n'a écopé que de la note de 6.
Bah d'ailleurs, mais sur Metacritic, il est pas plus que ça. Il a 62 ou 63 ?
61, je crois. Ouais.
61 donc, maintenant.
Voilà, c'est pas une catastrophe.
Donc la critique est unanime, on va dire.
Il y a plein de choses qui sont quand même à revoir pour en faire un jeu.
Mais oui, c'est vraiment cool.
Hautement, parce que moi, recommandé. Quoi.
Moi, je m'en souviens, il y a 2 ans, à l'E3, je me suis dit, putain, ce jeu-là, il me le faut, quoi. C'est. Ça a l'air extraordinaire.
Bah tu l'as aujourd'hui donc te plains pas.
Bah je l'ai, mais tu vois, je sais pas si j'ai envie de le relancer.
Tu peux aller voir ton toi du passé, lui dire bah tu l'auras, t'inquiète pas. Et là il est content, il fait
s'il faut
putain,
que
je reste
10 heures dessus comme ça sans quitter la manette, excuse-moi. Mais
moi ce qui me fait un peu peur dans cette histoire, c'est que c'est pour BioWare en fait. Parce qu'EA ils hésitent pas à faire tomber des têtes quand un studio n'est plus quand un studio n'est plus au niveau
des ventes
qu'ils attendent en termes de ventes
et surtout quand c'est produit, si on sait que Metacritic est un
élément important,
un élément super important pour les éditeurs.
On sait qu'hier, au fil du temps, a fermé de nombreux studios. Ils nous ont fait Mass Effect Andromeda. Ils enchaînent avec ça.
C'est vrai
qu'il n'a pas l'air parti pour être le carton.
Dragon Age,
de l'année.
Ce sera leur dernier Joker.
Ouais, il va falloir qu'ils se reposent
sur le tout dernier. Mais... parce qu'après, ça risque d'être très compliqué. Parce que Andrew Wilson, il n'hésitera pas lui. Hein.
Surtout qu'il est très riche.
Il fait 33 millions par an. Lui, il va dire.
Il shark.
Moi, j'ai mes actionnaires. Là, ils peuvent augmenter de 2 millions.
Vous prenez sur mon budget mascara là.
C'est moche ça. Mais bref,
c'est drôle.
Il hésitera pas, c'est sûr.
Mais le problème, c'est que Dragon Age, comme tu disais, je suis pas sûr que ça suffise en fait. Certes, c'est une licence forte qui a des fans, mais là, le problème, c'est que.
Inquisition a bien marché quand même.
Bon, mais c'était il y a longtemps, mec.
Dragon Age est une licence qui est chère au cœur de beaucoup de monde.
Mais oui, mais le problème, c'est que maintenant, BioWare, l'image de BioWare est ternie de plus en plus. Avec Andromeda.
L'image est souillée.
Bah, avec Andromeda, déjà, c'était couvert de boue et de merde. Et là.
Quand t'as la légendaire reçue de Camille.
Et là, ça risque d'être une nouvelle étape.
On va avoir des gens de BioWare qui vont nous appeler. Écoutez, je ne suis pas couvert de boue et de merde.
Allô, c'est Casey Hudson. Je voudrais parler à Camille Allard.
Non, mais.
Camille Allard.
Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, le public qui va pas chercher plus loin, ils vont avoir devant les yeux Anthem, ils vont se dire ok c'est pas terrible, est-ce que je vais encore leur faire confiance une troisième fois et leur donner de l'argent pour Dragon Age? C'est ça que je me pose comme question, quoi.
Tous les fans de la licence vont tenter le coup, je pense, sauf si je veux dire les reviews sont catastrophiques à la sortie du jeu. Plumeau a raison, c'est quand même un nom qui résonne encore dans le cœur de pas mal de monde.
Je suis pas sûr que.
Ouais, mais est-ce que c'est pas en train de se ternir justement au fil du temps, quoi?
Bah c'est couvert de bouée de merde, donc maintenant tu sais.
Gagner la confiance, c'est très long. Ouais. Perdre la confiance,
ça va très vite,
très rapide. Secondes.
Après, à quel point est-ce qu'on rattachera Anthem à Electronic Arts ou à BioWare, tu vois, sur le long terme, ça peut éventuellement jouer aussi.
Après, c'est vrai qu'EA a tellement une mauvaise réputation que peut-être que ça va se reporter plus sur EA que sur BioWare. Mais
le consommateur, tu sais.
Mais en fait, moi, le consommateur, je pense qu'il va avoir EA en tête. Mais moi, en fait, c'est la réaction d'EA par rapport à BioWare qui m'inquiète surtout, tu vois.
Mais en plus, là, le truc est double, c'est que t'as l'image de BioWare qui se dégrade, qui s'écaille de plus en plus, et de EA. Parce que rappelons quand même que Battlefield était un jeu très porteur, une grosse licence au même niveau que Dragon Age en termes de vente. et que l'épisode, le dernier épisode en date, Battlefield 5, malgré ses qualités, s'est vendu, mais genre c'est le pire épisode de Battlefield en termes de vente.
Battlefield Ultimate Team, mec, c'est, donc, c'est comme ça.
Ouais, mais non, mais quand tu dis que c'est il s'est passé ça pour Battlefield, pour Dragon Age, pour moi ça, il peut se passer la même chose, même en pire. Puisque là, il y a le double effet, il y a l'effet BioWare qui ternit son image et l'effet EA. Donc pour moi, c'est le, enfin tu vois, c'est, il y a peu de chances que le jeu marche. Hein, franchement.
Ils ont vendu quand même des millions de BF5. Je crois qu'ils en ont vendu presque 7 là où ils en attendaient 8. Donc ils sont déçus effectivement là-dessus, mais ça a pas été non plus une catastrophe sur le plan commercial.
Et comme ça n'a pas été une catastrophe sur le plan commercial, Andrew Wilson s'est donné 2 millions de dollars de
bonus. Mais ça, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Oui, on attendait que 8 millions, etc. Mais ça se trouve, ils ont trafiqué les chiffres pour dire. Parce que.
Ou pas.
C'est
quoi,
quand
tu vois.
Calmez-vous.
Quand tu vois les... Non, mais quand tu vois. Je sais. Bah, faudra que je.
J'ai même envie. Théorie du complot, là, allez.
Non, mais.
La Terre est plate.
Il y a pas longtemps, il y a un
oui, mais seulement sur une tortue.
Un graphique qui est sorti justement sur les ventes Battlefield d'épisode en épisode. On voyait que ça se faisait que se casser la figure d'année en année, d'épisode en épisode. Et bah voilà, ça, les chiffres sont parlants, quoi. Tu vois.
Mais t'as pas entendu ce qu'il a dit ? C'est la faute à la campagne solo. S'ils avaient fait Battle Royale à la place d'une campagne solo, bah ça voilà, aurait été le carton.
Mais il arrive le Battle Royale. Il arrive. Ça se trouve, il va être non.
Mais il arrive.
Il sera peut-être meilleur que celui d'Apex. Ou pas.
Ou pas.
Mais en tout cas, en thème, j'aurais bien aimé. Enfin, ouais,
on aurait tous envie de l'aimer.
Je suis pas. Non, mais je suis pas heureux que le jeu se casse la gueule. Bien au contraire.
Mais moi, je t'attendais vachement.
J'adorais BioWare. Je leur faisais confiance jusqu'à Mass Effect Andromeda. J'étais le premier.
Ils t'ont blessé, c'est ça.
Bah, mais non, mais c'est vrai.
Ils t'ont blessé
quand
dans ton
amour. Quand t'attends un jeu comme ça, tu te dis une licence forte, etc. Qui te la détruise à ce niveau-là, tu te dis ok, ça fait peur pour la suite, quoi. Et comme tu disais pour Anthem, c'est que on sent aussi ce côté manque de développement de temps.
Mmh. Alors justement, je crois qu'ils vont remonter le truc avec quoi, leur le DLC de machin ou
Mais je suis même pas sûr que le jeu puisse être remonté. Est-ce que ça vaut le coup maintenant, un jeu qui a foiré ses ventes dès le début, est-ce que ça vaut le coup de le remonter en fait maintenant?
Tout est possible.
En point de vue marketing, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas.
Tout est possible. Après, il y a la jurisprudence Final Fantasy XIV, un jeu qui était mort,
qui est mort et enterré,
il était foutu coup, et qui est revenu et qui est devenu un des MMORPG les plus joués.
Mais attention,
ça tient uniquement aux attachés de presse.
Et leur insistance.
Ben, enfin bref.
Mais attention, il y a quand même eu pratiquement un an et demi de développement intensif pour réussir à
plus
en
que
faire.
Ça même.
Alors mais que c'est... là, j'imagine mal Anthem reprendre un an de développement pur.
Bah non, maintenant c'est des rustines. C'est comme pour No Man's Sky, c'est comme pour Fallout 76. Maintenant, on colle des rustines là où on peut et peut-être qu'un jour on va sortir une grosse mise à jour qui va changer tout.
Bah, ce qui peut marcher,
oui, très bon.
Vraiment, c'est que le jeu passe en free to play et qui revoit totalement leur système de d'achat en fait.
En free to play.
Ils proposent vraiment un système intéressant puisqu'en plus le jeu est un TPS, un système de customisation avec beaucoup plus d'achat en ligne possible. Mais tout le jeu est free, tout le reste est free to play. Et là, je pense que ça, il y aurait moyen que ça passe et que ça puisse justement reprendre du poil de la bête, quoi.
Cool, tu vas acheter plein de skins à 25€ et tu seras content.
Bon, en tout cas, on est tous très tristes que Anthem ne soit pas le blockbuster.
Honnêtement, ils mettent la skin de Goldorak, ils se vendent le jeu. Je te dis tout de suite.
Ok.
Franchement, tu te vois avec l'armure de Goldorak?
Ouais, bien sûr. Ouais.
Moi, c'est carton.
Absolument.
Okay. Bah, t'achètes direct.
Ils viennent te chercher à quelle heure?
15€.
Je crois qu'on est en train de sonner.
Excuse-moi.
Il y en a un petit gilet pour toi, je sais pas où il est, notre petit gilet.
Le gilet jaune que t'as sous ta chaise.
Non, le blanc, celui qui fait les bras dans le dos. Bon, bah écoutez, tant pis pour Anthem. On va passer maintenant à quelque chose de plus joyeux. De plus.
J'adore comment tu le dis.
Festif.
De plus joyeux.
De plus festif. C'est Pokémon qui est l'anniversaire de cette semaine.
Pokémon.
C'est toi, Romain.
Ah,
je croyais que c'était toi.
Quelle classe.
Mais en fait, c'est toi.
Tu me dis ça parce que j'ai le manuel juste à côté, c'est ça?
Non, parce que t'es rouge.
Ah, tiens, voilà. Vas-y, fais passer. Non, je déconne.
C'est celui d'origine. De...
Bah oui, c'est celui d'origine, évidemment.
Rouge.
Tu m'as pris pour qui, sale con?
Tu sais que ça coûte rouge, 25€ ça, sur internet.
Alors, Pokémon Red and Green, Romain, est sorti le 27 février 1996 au Japon. Oh, c'est le premier Pokémon.
Putain, il y a 13
c'est
donc ans.
Oui, l'origine. Alors,
parce qu'en fait, nous on le connaît sous le nom de Pokémon rouge et bleu. Mais en fait, au Japon, après des années de développement, parce que Pokémon ça a été très long à développer,
avec l'aide de Satoru Iwata, rappelons-le.
C'est réalisé par Satoshi Tajiri, qui est toujours impliqué dans la licence
ans,
Pokémon aujourd'hui. En fait, donc oui, Pokémon rouge et Pokémon vert, les deux versions initiale, Pokémon vert qui n'est jamais sorti chez nous. Et ce qui est assez amusant, c'est que si vous vous procurez ces versions rouge et vert de Pokémon, le design des Pokémon n'est pas le même que dans le Pokémon rouge et bleu ou jaune que nous avons eu chez nous. Ça, ils ont été un peu redessinés ensuite. D'ailleurs, les Japonais ont eu Pokémon bleu eux aussi, sauf que c'est sorti le 15 octobre 96, donc tu vois, des mois après, 8 mois après. Et donc, pas bah, Pokémon, tout le monde connaît, hein, ce RPG.
J'ai toujours pas joué à un Pokémon de
même. C'est vrai, ouais. Les monstres
jamais.
De poche.
La cartouche est là. Mes neveux, quand j'étais petit, ils jouaient à Pokémon. Je me rappelle très bien qu'ils venaient en vacances chez ma mère et je les voyais jouer à Pokémon. Moi, j'ai encore jamais touché. Je suis vierge de Pokémon.
C'est vrai.
C'est fou.
Pokémon rouge et bleu, j'ai d'excellents souvenirs dessus. Oui. C'est cette sensation d'aventure que tu ressentais vraiment, je trouvais, avec la découverte des différentes régions, les Pokémon que tu pouvais avoir à certains endroits et pas à d'autres, le Safari Pokémon, la Team Rocket,
la Pokéball.
C'était plus qu'un effet de mode. Et une machine à merchandising que c'est et que c'est toujours.
Ah bah oui,
Pokémon, ouais. À la base, c'est un excellent jeu.
C'est du super. C'est un dungeon RPG collectionnite de super qualité, c'est ça
en
la
fait,
base
c'est un RPG aventure qui est très complet RPG, dans ce qu'il propose. Dire, voilà. Et en plus de ça, un élément qui était très intéressant, c'était l'échange.
Tiens, t'as la
tu pouvais connecter
deux le câble Link du Game Boy. Tu pouvais prendre part à des combats contre une autre personne, aussi échanger des Pokémon. Dès le début, certaines cartouches, Pokémon rouge avaient des Pokémon que Pokémon vert n'avait pas, et inversement. Si tu voulais compléter ton Pokédex, il fallait forcément procéder à des échanges et même recommencer plusieurs parties parce que il y a Salamèche,
Bulbizarre
et Carapuce. Tu ne pouvais les avoir qu'une fois au début du jeu, ce qui a été changé par la suite dans la version jaune.
Et Evoli aussi. Il te fallait plusieurs Evoli pour pouvoir avoir justement les différentes évolutions.
Donc en fait, il y avait plein de mécaniques comme ça qui étaient originales et intéressantes. Et en plus de ça, il y a toute une.
Et par-dessus le marché.
Toute une mythologie et toute une gamme de rumeurs qui se sont lancées autour de Pokémon. Par exemple, on savait qu'il y avait le Pokémon 151 qui était Mew, qui n'était disponible que via Nintendo dans des événements spéciaux. Mais il y avait plein de rumeurs qui disaient que non, si tu fais ça,
tu pourras le trouver.
Parce qu'en fait, t'avais des compétences que tu débloquais au fur et à mesure, comme vol, surf, etc. Mais si tu les faisais, tu les activais, on va dire, d'une manière différente et que tu utilisais les capacités autrement que dans l'ordre que veut l'histoire,
ou à certains endroits,
ça te pouvait faire accéder à certains lieux autrement inaccessibles. On se souvient du camion à côté du paquebot.
Dans les cours d'école, tous les élèves, ils s'échangeaient leurs techniques pour essayer
d'armer.
Toutes
les techniques, je les ai essayées. Il n'y en avait aucune qui fonctionnait.
Mais ça, c'est comme à l'époque de Street Fighter, quand on nous disait sur Super Nintendo qu'on pouvait débloquer Balrog, Bison, etc. Avec un code à la con. Il y en a même qui disaient qu'on pouvait.
Même les DBZ sur Super NES, il y avait des.
Il y en a même qui disaient qu'il fallait inverser les cartouches à un moment précis.
Lara Croft nu aussi.
Ouais, voilà, où tu captais MTV. Même si t'avais lu la chambre, enfin, bref, c'était n'importe quoi.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a découvert assez récemment par rapport à l'âge du jeu qu'effectivement tu pouvais bien choper Mew in-game, mais c'était une suite de manipulations totalement improbable. C'était un bug en fait qui te permettait de le capturer. Il n'y avait pas d'endroit caché dans le jeu qui te permettait de l'avoir simplement. Il y a un vrai bug qui existe, qui a été découvert sur le tard. Mais en tout cas, Pokémon, c'est une Pokémon rouge et bleu. Si t'as l'âge de le découvrir au moment où ça sort, comme ça a été mon cas, c'était génial. Vraiment, passé d'excellents moments dessus.
Moi, j'ai juste un très mauvais souvenir. J'ai adoré Pokémon. Moi, j'ai eu la cartouche rouge qui est juste là à l'époque, et j'avais pris, je crois, Carapuce pour débuter le jeu.
J'ai pris ça à la mèche, moi.
Et arrivé à un moment donné, je sais pas, au bout peut-être de 15-20 heures, je me dis ah tiens, je me ferais bien une autre partie avec Salamèche justement pour voir ce que ça change. Et du coup, je lance un new game.
Ça t'écrase, ouais.
Et je n'avais pas la moindre idée qu'il y avait qu'une seule putain de sauvegarde en fait sur ce jeu, parce que moi j'étais habitué aux Zelda avec 3 slots, enfin tous les jeux de l'époque en proposaient 2 ou 3, et j'avais pas la moindre idée que ça pouvait écraser ma sauvegarde de base. Et du coup, j'ai flingué ma partie en fait.
Et du coup, t'as pas recommencé.
Ah si, j'ai recommencé, j'ai fini par avoir les 150 de Pokémon, mais j'étais overdeg pour le coup quand j'ai cherché ma sauvegarde et que j'ai compris qu'elle avait complètement disparu.
Il y en a qui sont overpaid, c'est Thomas, lui était overdeg.
Action replay, mec.
Moi j'avais le bleu, ma petite soeur avait le rouge. Elle avait pas envie que je lui saccage sa sauvegarde pour récupérer les trucs, mais au collège j'ai trouvé un camarade qui m'a dit je te le prête. Je peux, un camarade de classe, créer une nouvelle sauvegarde.
Il y avait une carte rouge.
Et une carte. Et oui, il avait la cartouche rouge.
Un camarade, une cartouche rouge, d'accord, très bien.
Yeah.
Est-ce qu'il avait un couteau entre les dents, ce camarade?
Oui, il était péruvien en plus.
C'est bah voilà, tu t'expliques.
Et c'est même pas une blague.
C'est des carlouches.
Et il m'avait filé sa cartouche, il m'avait dit non, aucun problème. Et donc j'avais récupéré Bulbizarre et Carapuce comme ça, parce qu'il m'avait, il m'avait prêté sa cartouche de manière très généreuse et laissé faire les choses. Et donc c'était très chouette. Aussi, un truc qui fait que Pokémon, bon, pour le coup, Rouge et Bleu est marquant chez nous. Excellente traduction avec des adaptations des noms en français souvent très drôles, oui, très bien pensées. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille le premier numéro de, du magazine Retro Laser de d'Omake. Dedans, il y a une interview du traducteur du premier Pokémon où il explique comment ça se passait avec le Japon, comment il faisait ses jeux de mots, etc.
T'as son nom ou pas?
Ça m'a échappé ça parce que le magazine date d'il y a plusieurs mois.
D'accord.
Mais l'interview est passionnante et tu sens que le mec a quand même beaucoup d'humour. Mmh. Il y avait même des jeux de mots qui étaient un peu...
C'était
un peu audacieux, audacieux pour un jeu qui est quand même destiné à un public assez
gros
jeune.
De mort.
Et autre chose très important à souligner, c'est qu'au moment où il sort, Pokémon Rouge et, donc Rouge et Vert au Japon, mais Rouge et Bleu chez nous, donne une seconde jeunesse au Game Boy. Parce qu'il faut savoir qu'en 96, la console a déjà quasiment 7 ans au Japon, ce qui est considérable, surtout pour une console avec un écran noir et blanc.
Déjà qu'elle est tenue jusque-là.
Et là, bam, ça repart, ça repart comme en 40 grâce à Pokémon. Chez nous aussi, ça a, ça a eu un impact quand même assez, assez fort. Alors après, je crois un an ou peut-être un an après, je pense qu'il y a Pokémon Jaune qui déboule, où là encore les Pokémon sont redessinés, la structure de l'histoire est un peu modifiée pour se rapprocher plus du dessin animé. Et là, avec une seule cartouche, tu pouvais avoir Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, en plus de Pikachu. Mmh. Donc là, c'était une cash machine incroyable. Après, il y a eu le dessin.
Ça l'est toujours, hein, je crois. Hein.
Oui, ça l'est toujours. Comme Pokémon Go, j'ai pu le montrer. Dessin animé, produits dérivés, ça continue encore aujourd'hui, mais vraiment. Un grand jeu qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune et que pour lequel j'ai encore beaucoup de nostalgie.
Et tu n'es pas le seul dans le monde.
C'est il y en a quelques millions.
Et d'ailleurs, j'ai quasiment fait tous les épisodes majeurs de Pokémon après ça.
Ok, bah tu feras tous les tests.
Bah voilà, on allait te dire, tu vas nous faire un dossier sur chacun des Pokémon.
Sur tous les personnages.
J'ai pas fait Let's Go malheureusement.
Sur chaque brin d'herbe. Depuis le tout début. Voilà.
Exact.
Mais en tout cas, un bel anniversaire à Pokémon. 23
Absolument.
Ans.
23 piges.
C'est pas mal. 23 ans, c'est pas mal du tout. Exact. On va finir avec le hors-jeu de la semaine. Cette fois, je vais bien te regarder, Thomas. C'est toi.
Tu peux me regarder.
Je vais regarder. Puisque ça concerne un bouquin que tu as lu tout récemment et qui t'a fait. Est-ce que ça t'a mis en boule quand tu l'as lu?
Non, ça m'a fait kiffer.
Ah.
Ça m'a fait kiffer, mais comme le jeu d'ailleurs, dont il raconte un petit peu la genèse. Mmh. Puisque ce bouquin, vous l'avez là sur la table, c'est Katamari Damacy chez Boss Fight. Boss Fight, qui est un éditeur de livres aux États-Unis, qui revient sur la genèse de pas mal de jeux avec pas mal de talent généralement. Et comme il n'y a pas beaucoup de documentation sur Katamari Damacy, qui est un jeu très injustement méconnu, surtout le premier épisode qui n'est jamais sorti chez nous. Eh bien, je me suis offert.
Ah bon, c'est jamais sorti chez nous le premier?
Le premier, non, pas du tout. Non, d'ailleurs, tu vois, on a la version US ici, puisque en Europe, il a jamais vu le jour. Le premier qu'on a eu, c'est la suite Wheel of Katamari.
Ah bon?
Et là, le bouquin donc retrace un peu toute l'histoire du premier jeu, et évidemment de son génial créateur Keita Takahashi, qui est un mec un petit peu barré, qui joue aux jeux vidéo pendant sa jeunesse, et qui plus tard, au moment où il va devoir trouver un boulot, se dit j'aimais bien les jeux Namco. Je crois que c'était pas mal. Du coup, je vais aller frapper chez eux, voir s'ils veulent bien de moi.
Et de la lumière, il est rentré.
Non, mais c'est un peu ça en fait. Il jouait plus aux jeux vidéo depuis un petit moment, mais il s'est dit je crois que les jeux que je préférais c'était ceux de Namco. Donc il va frapper à la porte de Namco.
C'est facile la vie, sans déconner.
Non, mais il passe des entretiens.
Il a traversé la rue.
Et surtout, pendant ces entretiens, il leur explique en fait à chaque fois à quel point leurs jeux actuels sont pas bons. Parce qu'ils sont pas assez dans la déconne, ils sont trop sombres, on est à l'époque de la PlayStation, et en gros, à tous ces entretiens, il explique qu'il faut arrêter de faire des jeux comme ça, et qu'il faut revenir à un côté plus simple, plus joyeux, etc. Du coup, évidemment, il est pas pris, hein, puisque le mec qui dénigre l'entreprise à tous ses entretiens d'embauche, forcément,
en général,
ça finit un petit peu mal, mais
bon
par un coup du destin, il finit par quand même intégrer l'entreprise. Et il va une fois de plus faire un peu des siennes, puisque on lui propose de participer au projet qui se monte à ce moment-là, de bosser sur un nouveau Ridge Racer, un nouveau Tekken, ce genre de truc. À chaque fois, il dit non. Non, ça m'intéresse pas. C'est déjà vu. C'est moi, je veux pas faire ça.
Mais c'est quoi cette diva?
Et le mec, il va faire un jeu bizarre.
Non mais il va passer des entretiens et dit vos jeux, ils puent la merde. Ensuite, il bosse chez eux. Finalement, il leur dit non, je bosse pas sur vos merdes. Qu'est-ce que vous faites là?
Mais du coup, c'est ce qui se passe. En fait, il est chez Namco et il travaille sur rien pendant un moment. et en fait. je
n'ai payé rien foutre.
Et en fait,
elle doit être passionnante, sa biographie.
Non, mais le bouquin est super intéressant parce que le mec met vraiment les pieds dans le plat à chaque fois. Mais il continue à avoir des idées. Il sait qu'il veut faire un truc joyeux, simple, accessible, etc.
Joyeux.
Et un soir, en descendant une rue, il finit par avoir l'idée de Katamari Damacy, qui est donc le principe de rouler une boule avec les deux sticks de la manette de la PlayStation 2 pour accumuler des objets encore et toujours.
Agglomérer,
des objets
même, je dirais.
Comme le dit le roi du cosmos, la Terre est pleine d'objets. C'est un peu
agrégé.
C'est un peu une critique contre l'accumulation et ce genre de choses, et il finit par essayer de pitcher un petit peu le jeu à Namco, qui va lui assigner progressivement une équipe d'étudiants.
J'allais dire une équipe de tocards.
Non, une équipe d'étudiants occidentaux qui va commencer.
Tu nous dis qu'on fait que de la merde en fait. Tu veux pas bosser sur nos jeux, tiens, on va te filer les étudiants. Voilà, les
stagiaires. C'est un peu ce qui se passe en fait. Il lui assigne une équipe d'étudiants à l'étranger et du coup, bah en fait, il fait des allers-retours pour bosser sur un proto avec eux et il envoie chier toutes les idées qu'on lui soumet. Parce qu'en fait, les gens qui travaillent avec lui veulent complexifier les mécaniques, amener plein de nouvelles choses. Et lui, à chaque fois, il dit non. Il dit non à tout. Il dit non, on va rester sur les deux sticks. Non, ça va être simple. Non, ça va pas être compliqué. Ça va être coloré, etc. Et du coup, ce bouquin raconte un petit peu toute la genèse de ce jeu, qui est quand même assez ouf. Et Namco ne sait pas forcément comment le jeu va être reçu, puisque c'est quelque chose de complètement nouveau. Et le jeu sort au Japon et en fait rapidement Takahashi est envoyé aux États-Unis pour le présenter pendant une convention et il se retrouve devant plein de journalistes américains, un peu toute la crème du jeu indépendant à l'époque. Et quelques professionnels de la presse. Et dès l'intro, pour ceux qui y ont joué, vous savez, vous arrivez sur le menu. Et en fait, pour choisir ta partie, tu embarques déjà un bout du logo de Namco. Tu choisis Na, M ou Co. Et les gens voient ça. Tout le monde commence à rigoler dans la salle. Il fait une démo du jeu. Et là, c'est la folie. En tout cas, ce que le bouquin raconte, c'est que les gens sont ouf dans la salle. Et il finit par leur dire bah, oui, mais en fait, on est désolé, ça va pas sortir en dehors du Japon. Tollé général, les journalistes américains commencent à faire un travail de lobbying pour dire que c'est un jeu absolument incroyable.
Ils présentent le jeu à un public qui ne l'aura pas.
Oui. Ouais, mais parce que ça doit être une GDC, tu vois, ou un truc comme ça. Il y a des développeurs indés, et du coup, il présente son prototype. Enfin, c'est pas un prototype, c'est la version du jeu japonais. Et finalement, bah, à force d'en parler, Namco se dit qu'il y a peut-être quand même une carte à jouer. Ils finissent par le localiser, et le jeu va cartonner aux États-Unis. Ils vont en vendre 500 000 exemplaires assez rapidement, ce qui était complètement inespéré pour un jeu aussi bizarre, puisqu'en plus, Poufy a la bonne idée de vous montrer un petit peu les brèves. Séquence scénaristique, on va dire, qui explique un petit peu ce qui se passe en coulisses, parce que Katamari, grosso modo, c'est l'histoire du roi du cosmos qui un soir fait n'importe quoi, défonce à peu près toute la galaxie et finit par dire à son fils j'ai flingué les étoiles, tu vas aller rouler des trucs sur Terre pour les recréer toi-même, hein, et puis on n'en parlera plus. Grosso modo, l'histoire du jeu, c'est un petit peu ça. Et voilà, et ce bouquin raconte un peu toute l'histoire du jeu et finit aussi, c'était évidemment indispensable, par parler de la bande-son, parce que la bande-son de Katamari Damacy, c'est juste un des trucs les plus incroyables qui ait jamais été enregistré. C'est une OST que je me repasse toujours avec beaucoup de délices. Et pareil, Takahashi explique qu'il avait envie de prendre des grands noms de la chanson populaire japonaise, mais qui avait rien foutu grosso modo depuis 20 ans en fait, qui était sorti un petit peu du giron,
des has-been, quoi.
Un peu des has-been, ouais, mais qui avaient eu leur moment de gloire. Et du coup, il va les voir et l'idée géniale qu'il a une fois de plus, c'est de leur dire écoutez, vous savez quoi, vous allez faire ce que vous voulez, les gens, carte blanche. Et ça explique pourquoi l'OST est aussi dingo, c'est que les mecs ont eu l'occasion de faire absolument tout ce qu'ils voulaient. Donc voilà, il y a trois artistes chanteurs principaux qui vont faire de cette OST la petite merveille que c'est. Et voilà, tout ce que raconte ce bouquin, c'est l'histoire de ce jeu absolument fabuleux. Alors malheureusement,
c'est un peu un visionnaire,
il y a quelques bouquins de boss fight qui ont été justement localisés, traduits chez Omake. Il y a une première série qui est sortie. Katamari Damacy ne fait pas partie de cela, donc à l'heure actuelle, en tout cas, le livre n'est disponible qu'en anglais. Mais si vous aimez ce jeu, donc si vous êtes quelqu'un de bon goût et si vous êtes anglophone, c'est vraiment une histoire assez incroyable que celle de Katamari Damacy et de son créateur Takahashi, que du coup je vous recommande plus que chaudement.
Bah moi j'ai envie de le rencontrer, ce mec, pour
pour qu'il m'envoie chier, moi.
Bah
pour
ouais,
j'ai envie de te poser des questions. Non, moi je répondrai pas à ça.
Bouler,
je répondrai à ça.
Non, mais c'est enfin ouais, je ce type m'intrigue.
Sacré personnage.
Absolument. Bon, voilà, c'est fini pour le hors-jeu de cette semaine. Et en fait, c'est fini tout court. C'est la fin de ce podcast auquel j'espère vous avez pris du plaisir à participer ici, en tout cas.
Oui. Avec le regard de Camille, c'est pas garanti, mais
il s'est pas beaucoup frotté la jambe cette semaine, donc je pense qu'il a pas pris énormément de plaisir.
Tu frottes plus la jambe que ça quand t'es content. Je confirme. La semaine dernière, c'était chaud. Par moment.
C'était chaud bouillon.
Métro. Ah oui,
Métro Exodus.
Ah ouais, Métro Exodus, c'était hot. Merci en tout cas, Traz, Romain, Camille.
Merci.
Thomas et Poufi aussi, comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis.
Merci
comme
à
d'habitude.
Tous,
la semaine prochaine, je pense que le podcast Game Long va reprendre son cours normal et que vous retrouverez Zuzo.
Ou pas,
ça se trouve, il aura préféré rester en vacances.
Il va peut-être oublier de rentrer en fait.
Voilà. C'est tout à fait possible. Il en est parfaitement capable.
Voilà.
Il aura peut-être la tête dans le gaz, comme ça peut lui arriver fréquemment. En tout cas, la rédac, elle, sera au poste pour un nouveau podcast. On vous dit à la semaine prochaine et on fait des gros
bisous.
Ciao
à tous.